Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeu vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu?
Bonjour à tous, bonjour Médiel Canafi, moi je vais très bien et toi?
Ça va très 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 bien.
On est dans une période plutôt excitante.
Les derniers jours passés sur un jeu qu'on apprécie pas mal, moi notamment. Donc franchement, on va pas se plaindre.
Tout à fait, donc on va effectivement parler aujourd'hui de d'Ordogne et de...
Non, Final Fantasy XVI est sorti hier, hein, si vous nous écoutez le jour de la diffusion de l'émission. Et donc, actu brûlante oblige, nous avons un brin décalé le programme prévu pour faire place à une émission entièrement dédiée au nouveau Final Fantasy. Pas d'inquiétude, vous retrouverez dans 7 jours la critique de Dordogne et un décryptage du dernier trailer de Final Fantasy VII Rebirth que vous nous avez demandé. Ça fait plaisir.
Priorité au direct.
Mais pour l'heure, vous aurez droit à deux chroniques sur Final Fantasy XVI. En premier lieu, nous reviendrons sur le développement, les enjeux, le pourquoi, du comment concernant Final Fantasy VII. Puis, dans la seconde partie de l'émission, il sera l'heure de se poser une grande question. Qu'est-ce qu'un Final Fantasy? À la suite de quoi, on se demandera si ce 16e volet en est toujours un de Final Fantasy. Vous retrouvez bien entendu l'interlude top 3, mais avant, c'est la rubrique retour sur l'émission de la semaine dernière dans laquelle nous vous parlions du Summer Game Fest. Et bonne nouvelle, nous avons appris depuis que l'un des jeux coup de cœur de Nico, The Book Walker, est sorti hier. Attends. Oui, sorti hier.
Oui.
Les gens nous écoutent. Sorti hier, en Day One, sur le Game Pass.
Eh ben, écoute, c'est super, parce que moi, je l'ai mis carrément dans mon top 3 des petits jeux à surveiller, quoi. Donc, on va dire que dès que j'aurai fini mon gros dossier en cours, je vais aller jeter un œil, jeter un stick là-dessus.
On se demande bien ce que c'est, ce dossier en cours. On est passé très rapidement sur Starfield. Ça, c'est notre habitude. Les gros moments, les momentum sur PlayStation, c'était Spider-Man 2. Là, c'est Starfield. Juste en deux mots, ce qui peut être sympa aussi sur... pas l'état d'esprit, mais ce qui est important pour des joueurs et pour d'autres, nous, Starfield, on comprend, on conçoit que ça soit un moment fondamental et important de l'année. Peut-être pas pour nous. Moi, je l'attends pas spécialement, Starfield.
C'est pas notre cam, comme on dit. Ouais. Voilà. Après, s'il faut, on va tomber les pieds joints dedans
bien
et qu'on vous en parlera au moment de sa sortie en disant que c'est le GOTY de ouf. Mais c'est vrai que c'est pas tellement, enfin, les jeux Bethesda.
C'est pas la philosophie.
C'est pas forcément, voilà, le type de jeu vers lequel on se précipite, quoi.
J'espère qu'on sera dans un cyberpunk dans le sens où c'était un titre qui nous intéressait pas spécialement. Mmh. Et puis, une semaine avant, la hype, on s'est fait emporter et finalement, on a bien apprécié le jeu. On a un Surstrike EX, hein, qui le décrypte dans son entièreté. Moi, j'espère retomber dans un cycle similaire.
Ouais, c'est vrai que ça a l'air cool et super complet. Enfin, on a quand même maté l'émission dédiée sur le sujet. Il a l'air d'avoir moult possibilités, donc ça a quand même l'air d'être un jeu intéressant.
Ouais, on va louer quand même le format de conférence de Microsoft qui a fait un segment multiple sur tous ces jeux, ces first party, cette tier, et puis qui a consacré 40 minutes, plus de 40 minutes à son jeu star de fin d'année. Le format était vraiment incroyable, donc ça, GG, comme on dit. Autre retour sur le Nintendo Direct de cette semaine, surprise. Ouais. Alors moi, j'avais établi mes projections sur septembre, Nintendo allait prendre la parole et c'était un peu une extension du Summer Game Fest. Eh ben non, ils ont pris pleine part de Summer Game Fest, voilà, on est en juin.
Ouais, mais t'as Sony et Nintendo qui veulent faire les intéressants comme d'hab, donc Sony qui se place deux semaines avant, Nintendo qui se place une semaine après. Hein, donc, alors bon, on va voir, parce que c'était finalement quelque part, voilà, la conférence de l'E3 de Nintendo, hein, d'une manière
c'était quand même une prise de parole de 40 minutes, donc assez conséquente. Il y a eu du neuf, en premier lieu. Bon, Pikmin 4, on va dire que c'était quand même le segment un petit peu le plus développé, le jeu qui sort incessamment sous peu, c'était important. Ouais. Des surprises, avec Super Mario Bros. Wonder, qui a été annoncé pour le 20 octobre. Qu'est-ce que t'en penses?
Alors, j'ai été un peu frais quand j'ai vu la vidéo, parce que les Mario 2D, j'avoue, j'en ai un peu soupé. Hein. Quand on a eu le New Super Mario Bros., j'étais content comme tout le monde, mais au bout du troisième, au quatrième suivant, j'en pouvais plus. Mais après avoir revu la vidéo, c'est quand même un Mario qui a l'air d'avoir quelque chose qui sort un peu du cadre, on va dire, un peu rigide de la licence 2D. Il a l'air d'avoir des idées un peu folles qu'on a davantage l'habitude de voir plutôt dans les Mario 3D. Il y a une espèce de fraîcheur, des couleurs, des nouveaux items, des machins. Donc finalement, je suis plutôt chaud.
Hein. Direction artistique radicalement différente, en tout cas. C'est très, très...
Ouais, alors j'irais pas jusqu'à dire radical, mais il y a des petites modifs, des ajouts. Mario a plein de nouvelles animations.
Enfin, aux mesures de Nintendo, on sait à quel point ils sont à cheval sur le design de leur personnage principal, qui est Mario. Quasiment rien à voir, là.
C'est vrai. Mais déjà, le dernier New Super Mario Bros, t'avais ses décors en mode c'est Van Gogh et tout, je sais pas si tu te rappelles, qui a tenté déjà d'aller un petit peu plus loin que d'habitude. Là, on sent qu'ils se lâchent un petit peu. C'est pour ça que je privilégiais beaucoup plus les Mario 3D que les 2D, hein, parce que je sentais qu'ils étaient beaucoup plus, ils se lâchaient beaucoup plus niveau idée. Donc là, bah après, avec le timing de la sortie du film cette année, je pense que ça va être un carton, quoi.
C'est clair, je me joins à Ken, hein, qui, bah, comme lui, je pense que Nintendo va encore damer le pion de Sega avec son Sonic Superstar, qui proposait une direction artistique différente, un jeu 2D à l'ancienne, mais avec les capacités techniques. Enfin, tu vois, avec des pouvoirs.
Des nouveaux pouvoirs, jouables à 2, 1, 4.
Mais attends, excuse-moi. Donc, évidemment, les idées sont dans l'air. Évidemment que Nintendo n'a pas pompé Sega, mais ils vont encore arriver... Bon, là, ils vont arriver après coup, mais il y a quand même des chances que le Mario soit meilleur que le Sonic, j'espère pas, mais...
Après, Mario restera exclu Switch, donc Sonic sera dispo sur plusieurs consoles, donc il peut toucher un public différent.
Ouais, hein. Parce que c'est 20 octobre et le Sonic Superstar, il est prévu un peu dans les mêmes eaux.
Ouais, donc, mais d'ailleurs, on a vu le Sonic Superstar dans la conf Nintendo, et on voit que sur Switch, évidemment, il est quand même moins joli que sur les autres plateformes, donc voilà, finalement...
J'ai rien dit, mais je trouve qu'il est un peu cracra.
Tout le monde sera d'accord, bah ça sera un peu le fil conducteur, je pense, de cette conf. Hein.
En nouveauté, on a eu Super Princess Peach, enfin, un Super Princess Peach, on sait pas encore le nom, on sait pas rien, c'est juste 2024, voilà.
En tout cas, voilà, un jeu qui met en scène Peach, donc on l'appellera Super Princess Peach 2, nous, mais...
C'est vrai qu'il était...
Qui a l'air joli, encore une fois, hein, dans la lignée du carton du film au ciné, c'est pas con de développer chaque personnage dans son jeu particulier, mais bon, lui, on n'a pas encore eu trop d'infos dessus.
Hein. En nouveauté, et je mets des guillemets, il y a WarioWare Move It, c'est vrai que là, on parle de nouveauté, on est sur du Pikmin, Mario et Peach pour l'instant.
Bah ouais, mais bon, c'est des nouveaux jeux, tu vois, comme on l'expliquait hein, pour
pas
Zelda il y a quelques semaines.
Soit pas ce mec-là, soit un peu critique.
En tout cas, Wario, je suis super content parce que c'est une série que j'aime beaucoup. Alors le dernier, jouable à 4 et tout, là pour le coup, c'était pas du tout mon délire. Là, on a l'air de revenir à la source, les mini-jeux débilos. Donc je suis plutôt content.
C'est prévu pour le 3 novembre. Et du 9, voilà, du 9, du vrai, du 9, une nouvelle licence. Penis Brick Breakaway. Et oui, monsieur.
Ça, alors, c'est ça que t'as rajouté, ouais. C'est écrit quoi. C'est le Balan 2, là.
N'importe quoi. C'est le nouveau jeu de Evening Star. Donc, c'est le studio de Christian Whitehead qui a travaillé sur Sonic Mania. Il a fait le moteur physique de Sonic Mania. Donc, okay. Il a fait plaisir à tous les fans avec une vraie physique stylée. Et là, il s'attaque à un platformer 3D. Donc, voilà son apport. Il est creative director sur ce studio. Et il est aussi responsable du moteur. Donc voilà, son expertise sur un jeu plateforme 3D dans lequel en fait on contrôle une jeune nana avec un yo-yo, ce qui sous-entend voilà toute une dynamique de tourner sur soi-même, beaucoup de verticalité, ça peut être très intéressant vu la révolution et l'apport qu'il a apporté dans les jeux en 2D. Mais bah, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire en 3D? Moi, je suis très curieux de ça quand même.
Bah, on est en plein dans cette vague de jeux à la Nintendo 64 un petit peu qui te plaît particulièrement, même si on m'accuse moi d'être le fanboy de cette console.
Mais t'as même plus Mario là. Et je te laisse rajouter en nouveauté quelque chose aussi qui me plaît beaucoup.
Ouais, alors c'était dans le Nintendo Direct version japonais. Donc là, on sait que pour la version japonaise, des fois, il y a des segments dédiés en fonction du type de public. Et là, on a pu découvrir un jeu qui s'appelle Mameda no Bakeru, qui sort en fin d'année.
Ça veut dire quoi?
Alors, je ne sais pas. Mais qui a tout, en fait, du Goemon-like. Alors, rappelez-vous, Mystical Ninja, Goemon, la fameuse saga de Konami. Alors, on n'a pas pu trop creuser, parce qu'on a vu ça juste avant d'enregistrer. Donc, apparemment, ça serait des anciens de Konami qui bossent dessus. Mais c'est vraiment le pur délire, voilà. Donc, ninja féodal, mais avec une pointe d'un peu côté débile, un peu parodique, avec des combats de robots, plusieurs personnages.
Des véhicules, plateforme 3D, des gameplays différents.
Ouais, alors comme Yuden Chronicles a été un espèce de Suikoden, un renouveau de Suikoden hors de la licence, là on a ce jeu-là qui ravive un petit peu l'esprit de Goemon. Alors est-ce que Konami va du coup nous sortir une compilation derrière? Peut-être, hein,
franchement,
je sais pas.
Moi je demande que ça.
Mais c'est cool, enfin Goemon, c'est vrai que c'est pas une saga qui est ultra populaire, mais qui a toujours été là en fait depuis la NES ou Super NES, je crois que c'était Super NES, mais et il y a eu énormément de déclinaisons sur plein de machines en 2D, en 3D, et ça a toujours une ambiance particulière quoi.
Alors il y a eu beaucoup entre guillemets de neuf dans cette conférence, mais il y a eu aussi beaucoup de portages, de remakes, de patrimoine. On fait revenir un petit peu les vieilles choses, dont Super Mario RPG Remake qui arrive le 17 novembre, le RPG, premier RPG Mario qui était à l'époque développé par Square. Moi, je suis très content.
C'était la grosse surprise. Hein. Tout le monde, on savait qu'il allait avoir un remake d'un jeu Super Nintendo, donc on s'est tous dit s'il y avait Chrono Trigger, il y avait Bamut Dragon dans les Bamut Dragon dans les rumeurs.
Oui.
Et en fait, non, c'est le Super Mario RPG, donc la collaboration de Nintendo et de Square avant que le torchon ne brûle. Et c'est un jeu qu'on a jamais eu chez nous à l'époque de la Super NES, mais qui a été sorti sur le service de téléchargement de la Wii, je crois bien, lors du Hanabi Festival, le premier Hanabi Festival. Et c'est un jeu casse quand même son aura un petit peu culte, hein, donc qui sortait un peu du carcan Mario avec beaucoup d'humour, des situations un petit peu rocambolesques. Oui. Alors là, je trouve qu'ils ont rendu Mario encore plus SD qu'il n'était, mais ça reprend un petit peu la DA du jeu original, hein, qui avait cette vue isométrique avec une technique qui reprenait un peu celle de Donkey Kong Country. Mm. Et donc là, on retrouve ce Mario SD un peu qui a une tête chelou, c'est rigolo.
C'est très très mignon, c'est magnifique, je trouve. C'est très très
mignon. Mais c'est une bonne nouvelle, une surprise. En plus, ça arrive très très bientôt. Hein.
Ça arrive. Le 17 novembre, bah c'est voilà, vraiment...
Je savais que tu avais tout préparé.
Franchement, c'est très stylé. Luigi's Mansion 2, donc qui arrive sur Switch, un jeu normalement qui était sur 3DS ou DS
3DS, je crois, qui était très long.
Alors, il arrive en 2024, c'est peut-être pas le meilleur des Luigi's Mansion. Moi, j'en ai un très bon souvenir, mais je l'avais pas terminé parce qu'il avait plusieurs châteaux.
Ouais,
il était vraiment très long.
Super jeu, quoi. Enfin, moi non plus, je l'ai pas fini, mais... Enfin, après, je pense que voilà, on a tous découvert Luigi's Mansion 3, qui est un des meilleurs jeux de la Switch, on le répétera jamais assez.
Si vous
n'avez
pas fait Luigi's Mansion 3, faites-le.
Et qui a cartonné dans les charts, donc ils se sont dit, c'est peut-être l'occasion de faire revenir le deuxième épisode, qui est peut-être le moins connu, en fait.
Ouais, carrément. Pikmin 1 et 2 en HD shadow droppé sur l'eShop, c'est-à-dire qui était dispo tout de suite. Bonne nouvelle.
Bon, ben voilà, les 4 Pikmin seront sur Switch, donc j'ai envie de dire un peu Osef, parce que bon, moi j'aime bien quand Nintendo te dit on fait pas de nouvelles zéro parce qu'on n'a pas de nouvelles idées, et qui te fait 4 Pikmin, hein, qui ont l'air de se jouer à peu près pareil.
T'es dur, parce que vraiment, c'était il y a un moment le Pikmin 3.
C'est vrai
3,
quoi, alors on a remarqué que le dernier Pikmin c'était il y a quasiment 10 ans, donc c'est vrai que je suis.
La surexploitation, on est.
Oui, mais F-Zero, ça fait encore plus longtemps.
On n'en est pas là. Trilogie Batman Arkham qui arrive sur Switch, bon bah toujours pareil, l'actualité de la Switch décalée de plusieurs mois voire de plusieurs années.
Voilà, c'est un peu comme quand t'es sur Twitter et que tu vas sur Facebook, hein, ouais. Tu suis l'actu en décalé toujours, donc voilà. Faut voir si c'est une compile ou si c'est les trois jeux séparés, ça a pas été très très clair. Autant le 1 et le 2, je m'inquiète pas trop parce que c'était des jeux génération PS3, autant le 3, Batman 3 est un jeu PS4 et il était ultra beau. Lui, je pense qu'il y aura des coupes. Par contre, ça sera pas la même, quoi.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette trilogie Batman ne tiendra pas sur une cartouche Switch, ce qui est le cas de la compilation Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 qui sortira sur Switch le 24 octobre. Quelque chose qui est plutôt propre, bien fait. On va pouvoir découvrir vraiment quasiment l'ensemble de la saga Metal Gear. Évidemment pas le 5 et le 4. Mais.
Ouais, alors point positif, c'est vrai qu'il y a tous les jeux de la première section, on va dire, de la première partie, donc c'est pour ça que c'est un volume 1, donc il y a même le Metal Gear Snake Revenge sur NES, qui est pas vraiment un Metal Gear.
Et de MSX.
De MSX, on sait qu'il y aura des bonus avec des vidéos, des scans de magazines, des artworks et tout.
Exactement.
Par contre, il y a un délire, alors notamment sur la version Switch, au niveau de la place, donc ça sera sur une cartouche de quoi, de 6 gigas on a dit?
6 ou 8, ouais.
Et donc sur les 6 gigas, t'auras à peine un petit bout du jeu, et donc faudra télécharger plus de 50 gigas pour avoir le reste, la compile, sachant que la Switch, évidemment, c'est 32 gigas de mémoire interne, donc faites les calculs chez vous.
Faut pas jouer à tous les Metal Gear en même temps.
Voilà, donc faudra faire des choix. Bon, après, enfin, on a une carte SD aussi, tu peux te créer de l'espace disque dur aussi, mais.
Mais bon, bonne nouvelle, en tout cas.
Ça reste quand même cool de voir les Metal Gear revenir, même si c'est dans le jeu de l'époque.
Le 24 octobre, voilà. Top 10 all time. Ça sera dans ce giron-là. Il y a de l'actu Metal Gear, donc on en profite.
C'est legit.
Retour de Star Ocean avec Star Ocean 2, The Second Story R en HD 2D. Ça arrive le 2 novembre, voilà, fin octobre, début novembre, c'est chargé, hein, on continue d'alimenter ce calendrier. Tu parlais tout à l'heure de la rumeur de Chrono Trigger en HD 2D. Ah non, c'est Star Ocean 2.
Ouais, alors ça avait fuité une semaine avant, parce qu'on avait vu, il y avait le logo qui était sorti quelque part.
Ça a été officialisé, ouais.
Alors comparé au remake du premier Star Ocean, qui lui embrassait vraiment le côté 2D machin, là on vient sur quelque chose, voilà, mi-chemin, tu l'as dit, un peu, ça ressemble à de la HD 2D.
Ça ressemble donc, beaucoup, ouais.
Des décors en 3D qui ont un cachet très réaliste, étrangement, et des persos en sprite, des gros sprites, alors qui sont un peu délavés, je trouve, donc j'espère qu'ils vont booster un petit peu les couleurs, mais ça donne un cachet particulier, en tout cas assez charmant. Alors je suis pas un expert des Star Ocean, je sais pas aussi le 2 à quel niveau de vénéritude il se trouve.
Oh, c'est l'un des meilleurs.
Voilà.
J'ai pas fait le premier, j'ai fait le 2 à l'époque de la PlayStation.
Bah et donc, ça sera un bon RPG pour
action RPG. Donc là, si vous aimez que ça tabasse avec plein d'effets visuels de partout, ça pourrait être votre cam. Je vous rappelle, c'est le 2 novembre. On a dit que Pikmin 1 et 2 HD a été shadow droppé. Disponible tout de suite. Et il y a eu un autre truc qui a été shadow droppé et que tu as honteusement oublié de mettre dans ce récap. C'est le DLC de Mario Lapin Crétin. Oui. The Last Sparks Hunter, dispo tout de suite. Donc c'est le second DLC, c'est pas celui avec Rayman.
Ah ouais, parce que je suis un peu paumé là. Et on a vu une vidéo avec Rayman, c'est pas le même.
C'est pas celui-là. C'était prévu dans la roadmap. Okay. Il y a 3 DLC. D'accord. Le premier a été dispo. Là, c'est le second. Il est dispo. The Last Sparks Hunter. Et le dernier n'a toujours pas été annoncé au niveau de sa date. Celui avec Rayman, qu'on attend pour la fin d'année. Mais il y a un petit peu à bouffer pour Mario Lapin Crétin 2. C'est une bonne nouvelle.
Ouais. Alors, il y avait aussi un Dragon Monster, mais bon, les Dragon Monster, j'ai l'impression qu'il y en a qui sort tous les 6 mois.
Ouais.
Avec le héros de Dragon Quest 4, donc je pense que ça, les Japonais, ils sont en train de
se rouler par terre. À la fin, on voit le perso de Dragon Quest 4 teasé.
Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que ce line-up, alors, ça va avec beaucoup de portages, de remakes, de machin. Ça sent le line-up de fin de vie d'une console quand t'essaies de temporiser un petit peu avant l'arrivée d'une prochaine machine. Je sais pas si t'es d'accord avec moi.
Ouais,
là-dessus.
Franchement, belle théorie. Je suis assez d'accord. En tout cas, une conférence qui voit vers l'avenir à moyen terme et aussi à court terme. Ils sont là pour vraiment, voilà, préparer le terrain sur ce Noël. On sait à quoi on va jouer. Bon, Nintendo fait le taf comme les précédentes conférences de constructeurs Sony et Microsoft. On est là pour préparer Noël.
Ouais, après, sur la qualité de la conf au global, je dois avouer que de mémoire récente, hein, c'est un des plus mauvais Nintendo Direct que j'ai vécu.
Ouais.
On a eu pire, parce qu'il y en a eu des dégueulasses à une époque, mais je trouve que sur les derniers en date, ils avaient quand même rehaussé un petit peu le niveau. Là, il y a quand même eu beaucoup de OSF, quoi, je trouve.
Après, c'est
à mon goût.
Précédemment, c'était facile de faire un momentum dans le sens où tu mettais un Zelda Tears of the Kingdom qui allait tuer un petit peu phagocyter toute l'attention et bah.
C'est comme d'hab, là, ils auraient peut-être calé Metroid Prime 4. On serait tous en train de dire conf de l'année, banger.
Nous, en tout cas. Est-ce que le grand public attend Metroid Prime 4? Je sais pas.
Je ne sais pas.
Nous, on l'attend fébrilement. Prends tes feuilles et ton micro. C'est l'heure de parler de Final Fantasy XVI et des enjeux qui entourent sa sortie.
FF16 est arrivé, en tout cas, voilà, le jour où on enregistre, c'est la date de sortie de Final Fantasy XVI. Donc, derrière l'impatience des fans de la saga que nous sommes, cet épisode, il porte un statut un petit peu particulier. Un statut qui pourrait même être pivot pour le futur de la série, une série qui se trouve un petit peu à la croisée des chemins. Donc, on s'est même posé des questions qu'on imaginait, pas forcément envisageables il y a quelques temps. Est-ce que la série va réussir à retrouver sa place dans l'industrie à la hauteur de sa réputation? Je te vois déjà sourire, je pense qu'on ne sera peut-être pas d'accord. Est-ce que la série va pas finalement se marginaliser peut-être et retourner un peu dans son carcan, sa niche du JRPG, qui le JRPG est plus ou moins une niche, c'est un peu dur, mais c'est quand même l'idée, quoi.
Non, t'as raison, c'est pas un genre majeur. Même si, est-ce que Elden Ring et From Soul sont des JRPG?
Attention.
Là, vraiment, c'est une autre émission, mais non. Voilà, j'arrête.
Donc voilà, autour de FF16, beaucoup d'enjeux, beaucoup de pression, et on va voir ça ensemble. Donc on sait qu'avec l'arrivée d'Internet, évidemment, l'unanimité n'existe plus vraiment, Chaque sujet maintenant est débattu, il n'y a jamais personne qui est d'accord. En tout cas, en ce qui concerne Final Fantasy, en fonction de ton profil de joueur, certains vont marquer une rupture pour eux à partir, je sais pas, de FF7, qui vont dire c'est plus le FF médiéval fantasy de mon enfance. D'autres à partir de FF8, l'histoire d'amour, l'ambiance un petit peu chelou. Certains du 10, il y en a, on sait qu'ils aiment pas les héros en short et tout. Donc voilà, chacun va pouvoir se faire un petit peu son avis. En tout cas, on ne peut pas nier que depuis le départ de Sakaguchi, les développements en interne des FF successifs, ça a quand même été très compliqué. Donc en premier lieu avec FF12, évidemment, qui a été terminé dans la douleur sans Matsuno, qu'on a dit que
il était malade,
voilà, il a pas pu terminer, le pauvre. FF13, évidemment, on se rappelle tous de la débâcle Fabula Nova Crystallis, et tout ce qui en a découlé. FF14, évidemment, qui a été tué, dont la première version a été vite interrompue pour faire place à un reboot, qui heureusement aujourd'hui cartonne.
Et ressuscité, tel
un oiseau de feu, peut-être. FF15, lui aussi, sorti en kit, avec un bout de l'intrigue dans un film, une autre dans une web-série animée, donc voilà, un petit peu compliqué. Quoi qu'il en soit, FF, ça reste quand même la locomotive du JRPG, autant en termes d'aura que de budget. Mais je pense que avec le temps et avec les débats compliqués dont je viens de parler, la confiance des joueurs s'est un petit peu érodée dans la saga. Surtout qu'entre-temps, on a eu des espèces d'outsiders qui sont venus un petit peu combler le vide. On a eu Nier Automata qui est sorti un petit peu de nulle part. On a eu Persona 5, évidemment, qui est arrivé en France et qui a cartonné. Sans parler des alternatives comme Is, comme Chain Echoes, t'en parlais il y a quelques temps. Ou même Dragon Quest, avec l'épisode 11 qui est plutôt en forme.
Je suis obligé de rajouter Xenoblade, sinon quelqu'un va venir te tuer. Et
mais non, il est pas là.
Il est pas là, mais bon, il peut. C'est important pour le binôme que tu restes en vie.
En tout cas, faut quand même dire que FF7 Rebirth, je trouve, avait fait le taf pour remettre la série sur des bons rails.
Le remake même.
Le remake, carrément.
Le Rebirth arrive.
Oui, pardon. Et FF14, là aussi, MMO qui rapporte, qui est ultra rentable, c'est lui qui fait vivre Square Enix. Donc là, on va vraiment parler des FF solo. Mais pour ces FF solo, justement, Square Enix doit réussir à renouer, d'une part, avec son public traditionnel, qu'on l'a dit, c'est peut-être un petit peu lassé, et surtout conquérir un nouveau public de joueurs, pour lesquels ces joueurs-là, le lustre de la licence, il est pas forcément évident, en tout cas pas comme nous. Parce qu'il faut le dire, il y a quand même eu 7 ans d'attente entre FF16 et FF15, et FF15 déjà qui a connu une sortie chahutée, donc si on se fie par exemple à l'épisode d'avant, FF13, ça fait 13 ans d'attente. Donc 13 ans, t'as le temps de voir des générations de gens, t'as le temps de voir arriver des Fortnite et compagnie. Donc, ce qui est même marrant, c'est que la première chose qu'a faite Naoki Yoshida, donc le producteur de FF16, quand il a été mis aux commandes de ce nouvel épisode, ça a été de commander une étude auprès des joueurs, voilà, tel Matignon, pour vraiment voir quel était l'avis des joueurs sur la saga Final Fantasy. Mm-hmm. Et il révèle, en toute honnêteté, qu'ils ont été surpris du nombre d'éléments négatifs qui en sont ressortis. Alors là, je cite une interview parue dans le Figaro, hein, où il raconte, ils ont dit « Plein de joueurs d'une vingtaine d'années nous ont dit n'avoir jamais joué à cette série car elle ne les attire pas. Pour eux, Final Fantasy s'adressait à un public d'adolescents à cause de son design proche des dessins animés japonais et le rythme du jeu était jugé trop lent. Mmh. Et ce qui nous a surpris, c'est que des adultes qui ont grandi avec cette licence nous ont dit exactement la même chose. Ils ne s'y retrouvent plus. » Et déjà, dans cette citation, on voit des points très importants, je pense, dont on parlera plus tard. Et voilà, au cœur de cette remise en question, il y a même eu des débats qui se sont posés en interne, notamment sur la numérotation de la série.
Oui.
Est-ce que devait être gardée ou pas? On en reparlera tout à l'heure, je crois.
Oui.
En tout cas, FF, ben, ça reste un petit peu le dernier des mohicans là-dessus, parce qu'on arrive au 16e épisode, et on voit que dans le ciné, dans les séries, machin, aujourd'hui, la numérotation, c'est plus forcément à la mode.
Un petit peu dans le jeu vidéo aussi, hein, on commence à l'abandonner.
Avoir des reboots sans nom, voilà, God of War Ragnarok, ce n'est pas God of War 2.
Assassin's Creed, qui n'a plus son numéro.
Et en tout cas, une autre question aussi, c'est est-ce qu'il est toujours viable aujourd'hui pour un Final Fantasy de vouloir chambouler sa formule à chaque épisode? On sait que c'est la marque de fabrique de la saga, mais quand on sait aujourd'hui bah, le temps et l'argent que prend le développement d'un jeu, mm-hmm. est-ce que c'est pas presque suicidaire d'agir comme ça? Est-ce que c'est pas aujourd'hui devenu trop ambitieux? Parce que c'est vrai qu'à l'époque des FF 4, 5, 6, hein, je dis pas que les devs étaient faciles, mais venir chambouler un univers, un gameplay, des personnages, dans ça, à cette échelle, c'était beaucoup plus simple quand même qu'aujourd'hui, quoi.
C'est l'échelle qui est importante.
Ouais. Exactement. Et en tout cas, ce qui est positif, hein, c'est que face à ces questionnements, ben, Square Enix, ils ont réagi. Ils ont, voilà, pris des actions. Et donc, ils ont confié ce FF 16, je l'ai dit, à une nouvelle équipe. Donc, aux commandes, l'équipe qui a relancé FF 14, qui est, je l'ai dit, le FF le plus générateur de thunes de Square Enix aujourd'hui, et qui ont placé à la tête du développement Naoki Yoshida, l'homme fort de Square Enix actuellement. Et tu mets l'homme fort au chevet de ta saga phare, ça a quand même du sens, quoi.
Ouais, c'est tout à fait logique, quelque chose qui a déjà été fait. Yoshida, c'est le Golden Boy, dans le sens où tout ce qu'il touche, il le transforme en or. Mais ce fut le cas aussi de Nomura. C'est-à-dire que quand vraiment Nomura, il est monté en puissance, il a gagné en échelon, c'était Dieu le Père chez Square Enix. Il chapeautait plusieurs séries, dont Final Fantasy et Kingdom Hearts. Bon, là, il doit être un petit peu échaudé, on va dire.
Il est un peu plus persona non grata, mais on se rend compte que, par exemple, Tabata, il aspirait à devenir ce Golden Boy.
Tabata, il a voulu.
Et finalement, voilà, il était un peu son ambition tuée dans l'œuf. En tout cas, ce qui est cool et ce qui est rassurant, c'est de voir avec la façon Yoshida, sa façon de travailler sur FF14,
oui.
s'est répercutée sur FF16, avec notamment beaucoup de place laissée à la communication avec les joueurs. Et pas mal de transparence, là aussi, on va en parler tout de suite, quoi. Donc Yoshida, ben, il a mis son expertise au service d'une seule mission, c'est reconquérir le grand public,
oui.
et fatalement donc l'Occident, parce que ben, les US, ça reste le plus gros marché de jeux vidéo, donc ça passe forcément par là. Il y a un indice hein, qui ne trompe pas, c'est que la lip-sync, donc la synchronisation des mouvements des lèvres avec les voix dans le jeu, a été calquée sur la version anglaise, en fait, et pas sur la version japonaise, comme c'est souvent le cas, et d'ailleurs... Bah, ça a un petit peu râlé là-bas parce que ils se sentaient un petit peu dépossédés de leur bébé, quoi.
Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, des voix? Parce que moi, j'en parlerai pas du tout, ouais. d'ailleurs. Moi, j'ai joué entièrement en français. Toi, t'as joué avec les voix en anglais?
Ouais, alors moi, ce que j'ai un souci avec la lip-sync, justement, parce que sinon, j'aurais privilégié la VF, mais quand je vois, là, ce décalage, ça me stresse un petit peu.
Ouais.
Donc, je joue en anglais sous-titré français, avec, là aussi, on sait que la version française se base sur une traduction fidèle du japonais, là où la version américaine, certes supervisée par des membres de la team FF16, hein, oui. va partir sur une, on va dire, une interprétation un peu plus libre de la version originale pour lui donner un petit peu plus de grandiloquence. Donc, c'est vrai que je dois un peu débrancher mon cerveau parce que j'ai une espèce de décalage entre ce que j'entends et ce que je lis. Donc voilà, il y a des fois où ça se ressemble beaucoup, il y a des fois où ça a pas grand chose à voir, même si tu perçois quand même l'idée. Mais voilà, la version anglaise, je trouve, fonctionne bien pour ce côté, voilà, accent anglais qui
très taillé, ouais,
voilà,
c'est
ça donne le côté un peu, voilà, le côté un petit peu moyenâgeux pour eux. Bah, c'est quand t'as l'accent anglais, tu viens du Moyen-Âge, quoi. Donc,
en tout cas, pour la française, moi, je vous la conseille aussi chaudement. Je la trouve vraiment qualitative. C'est le cas depuis de nombreux Final Fantasy, le 15, le 7, les VF sont vraiment très qualitatives, sont prises au sérieux. C'est-à-dire que vraiment, t'as des acteurs qui sont là, t'as vraiment, voilà, une direction d'acteurs. c'est chapeauté. On est aujourd'hui, tu l'as précisé, l'Occident, l'Europe et les US, des marchés très importants. Donc c'est plus l'époque où on avait des jeux qui arrivaient même pas traduits. Et ça, je trouve que c'est fondamental et c'est une vraie révolution. Enfin, ça va dans le bon sens.
Ouais, et puis il faut sortir un peu du snobisme, de se dire ah la VF machin, comme on dit, tu vois, comme pour un Pixar aujourd'hui, une VF, elle est, y a des directeurs artistiques, oui. Y a des gens qui sont là pour prendre des décisions et tout. Donc faut un peu voilà, faut pas hésiter parce que c'est vraiment quand c'est bien fait, faut le reconnaître.
Voilà, les deux sont de grande qualité.
Donc je l'ai dit, hein, même si on adore ça ici, le JRPG c'est quand même un genre de niche. Alors du temps de la PS1, hein, les FF c'était des grosses ventes, hein, c'est plus forcément le cas aujourd'hui quand on compare à des mastodontes comme Call of Duty, Assassin's Creed, Hogwarts Legacy par exemple récemment. Alors on sait que le FF le plus vendu aujourd'hui c'est FF7, hein, avec à peu près 14 millions d'exemplaires écoulés. Mmh. C'est quand même 14 millions écoulés sur 25 ans avec quantité de ressorties à droite à gauche.
Sévère mais juste.
Si on peut comparer par exemple avec Capcom, je trouve que lui a réussi sa bascule dans le sens où à l'époque de la PlayStation 1, encore une fois, les Resident Evil cartonnaient aussi, mais par exemple Resident Evil 2 PlayStation 1, c'était 5 millions de ventes, ce qui était énorme à l'époque. Aujourd'hui, on voit qu'ils ont rehaussé leur standard. Par exemple, qu'un RE7 ou un Resident Evil 2 remake, ben on est sur 12 millions. Donc, on a eu ce gap vraiment entre ben, la licence a rehaussé son niveau pour coller un petit peu avec les nouvelles aspirations d'aujourd'hui. Et Square Enix, aujourd'hui, lui aussi, il doit réussir à briser ce plafond de verre. Et pour parler grossièrement, là, je caricature, mais il vise davantage avec FF16 les 40 millions de ventes de Witcher 3 que les 7 millions de Persona 5.
Allez, s'il faisait la moitié, il serait content, je pense. 20, hein.
Vraiment, avec à cœur ben, le but de remettre la série vraiment au centre de l'industrie du jeu vidéo. Et là-dessus, l'équipe de Yoshida, elle se montre très ouverte hein, sur sa com, et elle n'hésite pas à dévoiler les nombreuses influences qu'ils ont eues sur le dev. Ça cite du Game of Thrones, Attaque des Titans, Ultraman, Le Seigneur des Anneaux, Evangelion. Et ça, un développeur japonais qui affirme ses influences, ouais. C'est pas commun. Et au global, hein, pas que pour Final Fantasy. Et moi, je trouve que ça me rassure un peu parce qu'on voit que l'équipe, elle est plus dans une tour d'ivoire, tu vois, elle est consciente du monde qui l'entoure. Elle analyse aussi ce qui fonctionne. Et ça rejoint un petit peu l'équipe de Zelda, hein, qui avait pas hésité à dire que c'était inspiré de Skyrim, ce qui paraissait, là aussi, une espèce de tabou au Japon.
Ouais.
Donc c'est plutôt positif, quoi.
Chez Square Enix, ils ont ce move, hein, depuis quelques années, rappelez-vous sur Final Fantasy XV, sur les derniers DLC avortés, on avait vu un panel de développeurs de FF15 s'excuser sous Mimasen, on s'est raté et tout, avec un exercice de transparence même qui allait presque trop loin. Des fois, tu dis, ouais, vous n'êtes pas obligé de vous repentir comme ça. Dites, ben voilà, qu'il y a eu des ratages. Donc, c'est vrai que là, cet exercice de transparence fait du bien et commence un petit peu à changer les coutumes.
C'est vrai. Donc, FF16 se dévoile dans un univers aujourd'hui qui est médiéval, fantasy, très occidentalisé. On parlait de l'influence de Game of Thrones, je pense qu'elle crève les yeux dans le prologue du jeu, si vous avez fait la démo, vous savez. Et cette inspiration des jeux occidentaux, je trouve qu'elle va parfois même jusque dans les travers de ces jeux-là, avec par exemple les QTE pour ouvrir une porte et tout, c'est typiquement des trucs qu'on retrouve dans des Last of Us ou quoi, et que là on revoit aussi, ce qui était peut-être pas forcément nécessaire pour le coup. Avec un risque quand même de gommer un petit peu ce qui en faisait un jeu typiquement japonais et ce qui est aussi le charme qu'on aime dans les JRPG. Donc là-dessus, on va avoir des débats sur qu'est-ce qu'un Final Fantasy. Je pense
qu'est-ce qu'un FF ?
L'essence est à questionner là-dessus, quoi. On le constate aussi en jouant, l'aventure, elle est rythmée et elle est spectaculaire. Moi, je trouve que ce qui se passe dans le prologue, donc dans la démo, dans un JRPG classique, ça aurait mis 5 ou 6 heures à se dérouler. T'aurais eu le héros qui se réveille, qui va dire bonjour à sa famille, qui va dans les champs, machin. Là, en 2 heures, ça part tambour battant, il se passe 1000 trucs, et t'es déjà lancé dans l'aventure, quoi.
Dans un JRPG classique, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça aurait mis 5 heures, mais peut-être pas dans un FF. Les FF ont souvent des introductions et des prologues vraiment dantesques et menés tambour battant. Et finalement, est-ce que c'est pour ça que FF16 est dans cette lignée ? Je ne sais pas, je ne sais pas.
C'est vrai ce que tu dis. En tout cas, pour bien faire les choses, l'équipe de développement a choisi de prendre son temps, de bien peaufiner le projet. Mm-hmm. On a senti, je trouve, une équipe qui avait des objectifs de dev assez rationnels, tu vois, à défaut de viser la lune et d'être un petit peu à chercher la révolution à tout prix. Ils ont été rationnels, on a vu le jeu évoluer aussi avec les années niveau qualité graphique. On voit que ils ont bossé derrière là-dessus, mais qu'ils n'ont pas promis monts et merveilles dès le début. Ils ont été plutôt raisonnables là-dessus. On fait plutôt dans l'efficace, dans le carré. Et ils ont même un petit peu flex en mode on n'aura pas de patch G1, on n'en a pas besoin et tout. Finalement, ils se sont un petit peu rétractés. Donc
il
là,
est tout petit.
Ils auraient dû un petit peu pas faire les malins là-dessus.
Que ne rien dire est toujours la meilleure solution.
C'est clair. En tout cas, même si on n'a aucune idée de comment s'est passé le développement en interne, peut-être que ça a été le chaos absolu ou quoi. En tout cas, de l'extérieur, ils maîtrisent leur communication, ils maîtrisent ce qu'ils ont à dire. Voilà. Les prises de parole étaient bien réglées. Ils savaient dès le début où ils allaient en disant, voilà, on on annoncera le truc, la sortie sera pas dans 10 ans, rassurez-vous, tout ça. Et il y avait aussi ce besoin un petit peu de faire amende honorable, hein, je mets des guillemets là-dessus. On a annoncé dès le début le projet, il y aura pas de DLC, pas de plan transmédia foireux comme on a pu connaître avec FF15. FF15, le jeu, c'est vraiment la star, c'est là où tous les efforts se sont concentrés dessus. Et à mon sens, le dernier move stratégique qui a été très efficace, c'est de proposer la démo, évidemment, 15 jours avant la date de sortie, ce qui montre quand même une confiance dans son projet. Hein. Et là aussi, la démo, c'est 2 heures de contenu ultra efficace, et tu peux, avec possibilité de récupérer ta save, donc quand t'as fait la démo, en fait, t'as déjà commencé le jeu. Donc je pense que ça a dû mettre le pied à l'étrier de pas mal de monde.
Et ça, je voulais en parler, moi, dans ma section, mais autant le dire maintenant, je suis entièrement d'accord, la démo, c'est un move marketing incroyable, ce qui explique peut-être leur communication autour de FF7 Rebirth, la solution et la réponse à ce marasme de com, comment on peut expliquer le fait qu'ils aient parasité la communication autour de FF16 avec FF7 Rebirth, mais parce qu'ils étaient tellement sûrs de leur coup avec la démo, en fait, ils s'en sont foutus, ils se sont dit, bah vas-y, la démo, de toute façon, elle va finir de convaincre les gens, parlons de FF7 Rebirth, faisons plaisir aux gens, créons un grand moment de conférence et tout, et vous allez voir, la démo va vous convaincre, et ça a été le cas, quoi. Enfin, la démo,
c'est vrai qu'on n'a pas de statistiques, mais toujours pareil, dans le prisme de ce qu'on voit à travers les réseaux sociaux, tout ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se sont laissés convaincre.
Et je suis d'accord avec toi, ça a montré une forme d'assurance. Tu vois, ils ont posé, ils ont dit, voilà, la démo, c'est notre prologue, regardez, c'est ça notre proposition, et elle a convaincu, en tout cas, à mon sens.
Comment tout ce que je viens de dire, là, toutes ces réflexions, ça se traduit dans le jeu, ben, c'est par des points très précis. On va aller vite dessus. Je pense qu'on y reviendra plus en profondeur avec toi. C'est déjà l'adoption d'un système de combat en mode action, parce que à mon sens aujourd'hui tu ne peux pas exploser les charts si t'es un jeu en combat au tour par tour. Donc quand même, ils ont poussé le délire pas loin du DMC, hein. On est quand même beaucoup plus action qu'un Witcher 3 là-dessus. Il y a aussi énormément d'options de qualité de vie dans le jeu, hein. Tu peux afficher plusieurs de tes objectifs par exemple simultanément, t'as le loot qui est visible de loin et qui est récupérable facilement, tu vas voir les menus d'interface que je trouve très clairs, très lisibles, tu as même un lexique qui va t'expliquer, alors ça je trouve ça trop bien, en pleine cinématique t'appuies sur le pavé tactile, t'auras un lexique qui va te dire ben voilà cette scène là, les enjeux du moment, tel perso, tel lieu, tout ça, ben on va t'expliquer ce que c'est super bien fait.
Ouais.
T'as aussi ton chien avec une option pour pouvoir t'indiquer le chemin à suivre si t'es perdu, bon. C'est quand même pas forcément le cas.
Ouais.
Et t'as aussi,
c'est bien, ça peut être pas pratique, hein.
Et t'as aussi la sauvegarde et la téléportation qui sont accessibles à peu près n'importe quand. Donc là aussi, voilà, du confort de vie, c'est cool.
Pour la recontextualisation, pendant les cinématiques, comme tu l'as dit, t'appuies sur le pavé, tu sais directement les personnages en présence, les enjeux. Mais t'as aussi 2 personnages dédiés dans la diégèse du jeu qui vont être là pour t'expliquer le lore et pour te recontextualiser toute cette histoire politique. T'as 2 personnages dédiés.
Des espèces de bibliothécaires qui vont te ramener
et de l'info. Un professeur, ouais. Vraiment, très très bien fait.
La com en a aussi parlé, on a ces outils qui permettent de simplifier le jeu si jamais on galère, hein. C'est des espèces d'anneaux que tu équipes. Alors, oui. ils en proposent 5 ou 6, tu peux en équiper que 3, donc ça va être assurer des esquives automatisées ou ce genre de choses. Donc c'est très bien fait, là aussi, tu te fais ton expérience à la carte. Et aussi, bah, le jeu, il est construit pour vraiment accompagner le joueur pas à pas, peut-être même un peu trop, je trouve. C'est-à-dire que l'aventure va vraiment s'ouvrir petit à petit. Et même là, moi, je suis à peu près à la moitié de l'aventure, on va dire. T'as encore des tutos, t'as encore des fonctions que tu vas débloquer ou des types de quêtes qui se dévoilent plus tard. Donc, vraiment, cette idée de prendre le joueur par la main tout au long de l'aventure, quoi.
Ce qui peut être aussi appréciable dans le sens où le jeu va te distiller petit à petit en fait ses features, ses fonctionnalités pour que t'aies pas un sentiment de satiété trop tôt en disant ça y est, j'ai joué 10 heures, j'ai plus rien à apprendre, je connais mon système. Non, là, tout au long du jeu et jusqu'à très tard dans le jeu, on va encore te donner des nouveaux attributs.
Ouais, après je me dis, est-ce que les vieux routards auraient pas aimé avoir ça dès le début? Est-ce qu'ils vont avoir la patience, tu vois, d'arriver peut-être jusqu'à ces points-là?
Et les vieux routards, ils vont le finir le jeu.
Tout ça pour dire que dans la communication, il y a eu beaucoup de trailers, beaucoup de conférences, beaucoup d'événements autour du jeu, et certains y ont vu en fait un manque de confiance de Square Enix dans FF16. Alors, à mon sens, c'est pas vraiment le problème, c'était plutôt un manque de confiance dans la saga Final Fantasy aujourd'hui au global. Hein. Parce que comment statuer sur son rayonnement en 2023? Est-ce qu'elle est toujours pertinente aujourd'hui dans cette nouvelle ère, hein, l'ère des Battle Royale, des jeux services, tout ça, quoi? Et même, je pense que la question du futur de la licence pourrait se poser. Alors, on n'allait pas à dire que la série va disparaître si FF16 marche pas, mais je pense qu'il y a quand même des questions qui se posent en interne. Est-ce que si FF16 se plante, on aura un FF17 qui sera peut-être, je sais pas, un mobile, free-to-play? Peut-être que ça sera retour à une approche plus minimaliste pour avoir des budgets moins débordants. En tout cas, autant nous que Square Enix, on va scruter le potentiel du jeu avec attention, parce que ça va être quand même très intéressant, quoi.
Carrément. Je suis essentiellement, dans la plus grande partie... d'accord avec toi. Je pense que je vais pencher sur un autre plus positif, on va dire, plus, je pense que la saga Final Fantasy est plus importante peut-être que toi, mais on va développer. Mmh. Juste un petit point que t'as donné, et c'est pour ça que je rebondis maintenant, parce que c'est assez frais, c'est tu as dit que côté marketing, ils ont mis la max parce qu'ils avaient peut-être pas confiance en FF16 ou pas confiance en la saga. Peut-être que c'est tout à fait le contraire, et que quand t'es une société et quand t'es un studio et que tu mets la max en marketing, c'est que t'es confiant. C'est que quand tu vas dépenser la moitié du budget de production en com, c'est que tu penses que tu vas en vendre beaucoup. À notre petite mesure, quand nous, on investit dans la communication d'un livre, c'est souvent dans la communication du livre dans laquelle t'as le plus confiance, parce que c'est là où en fait, tu vas toucher le plus de joueurs. Alors ça peut être un versant ou l'autre, les deux sont entendables.
Oui, c'est vrai qu'au ciné, quand les studios croient pas du tout à leur projet, ils le sortent en catimini sans dépenser une thune de plus pour la com.
Et quand tu mets 100 millions en communication, c'est surtout son plus gros budget. Donc les deux sont possibles.
Voilà, deux salles, deux ambiances.
Deux salles,
l'optimisme, deux ambiances. Le pessimisme.
Peut-être pas le pessimisme quand même. Allez, voilà sur une première partie sur FF16, les enjeux, le pourquoi du comment. Merci Nico pour ta chronique. On va revenir sur FF16, ne vous inquiétez pas, de façon assez transversale, on va dire, avec la grande question de qu'est-ce qu'un Final Fantasy. Mais avant, c'est l'heure de l'interlude top 3 qui n'a absolument rien à voir avec Final Fantasy. Nous avons déjà fait un top 3 FF.
Oui,
tout à fait, monsieur. Sur ton impulsion. C'est vrai, je crois que c'était vraiment involontaire.
On commence à en avoir trop, là.
Cette semaine, le top 3 va s'intéresser aux jeux avec des gens connus, avec des célébrités, avec des people. Voilà, Damien nous a déjà parasité ce top 3 en nous disant ceci, cela. Donc, top 3 avec des gens connus, qu'est-ce que ça veut dire?
Top 3 avec des gens connus. Non, je pense que c'est assez évident, voilà. Alors, moi, j'ai fait un top hors, tu vois, les persos connus qui font juste le doublage, ou alors des jeux de sport, évidemment, parce que t'as plein de gens connus dans les jeux de sport, ou bien les jeux à licence, tu vois, l'adaptation d'un film, t'auras l'acteur du film. Ah. Moi, je suis allé un peu hors de ces trucs-là.
On va remercier Tanaka, c'est lui qui était à l'impulsion de ce top 3. Il nous avait proposé le top 3 des jeux avec des basketteurs, parce que, voilà, on sort des playoffs et de la bague NBA. Bravo les Nuggets. Voilà, on a un petit peu élargi le prisme parce que c'était assez compliqué.
Parce que voilà, on trouvait deux exemples, mais pas trois, et on allait avoir les mêmes.
Est-ce que exceptionnellement tu me permets de commencer ce top 3 parce que justement mon top 3 c'est Shaq Fu, un jeu avec Shaquille O'Neal. Donc voilà, le top de Tanaka s'articulait autour de deux jeux, le premier et le second que je vais citer très prochainement. Petit mot sur Shaq Fu, un jeu de bagarre dans lequel le main, le personnage star, c'est Shaquille O'Neal, le basketteur. Alors, il a une réputation de jeu éclaté, ce jeu, de jeu nul, mais à l'époque, je suis désolé, pour moi, il était pas nul.
Bah oui, parce qu'on avait 7 ans et on captait rien à la vie, donc tu nous mettais un jeu avec Shaquille O'Neal, on était comme des oufs. Il a la réputation d'être injouable. Après, c'est vrai qu'il affrontait des momies et tout. Enfin, l'univers était un peu chelou. Faut savoir que c'est un jeu qui est développé par Paul Cuisset, hein. Donc voilà, flashback, tout ça, quoi.
J'ai la France. Donc voilà, à l'époque, pour moi, Shaquille O'Neal, il était pas nul, non, mais Shaq Fu n'était pas nul. Je mets une mention directe avec MJ Chaos The Windy City, donc un jeu avec Michael Jordan, un jeu Electronic Arts sorti sur Super NES, un jeu que je n'ai pas eu la chance de faire, et je l'ai badé, ce jeu.
Et en plus, en fait, tu te baladais, donc t'étais Michael Jordan, t'évoluais dans un jeu d'action en 2D, et t'avais des ballons qui avaient différents pouvoirs, c'était des pouvoirs élémentaires, t'avais le ballon de feu, le ballon de vent et tout, et ça avait l'air trop bien.
Avatar Airbender, rentre chez toi. Enfin, Michael Jordan avec un ballon de feu et de glace, maté la jaquette Super NES.
Trop bien.
Genre meilleure jaquette all time, comme ça là. Pouf.
Et tout comme Shaq Fu, développeur connu, c'est Amy Hennig qui a bossé sur Michael Jordan in the Chaos in the Windy City.
On apprend trop de trucs.
Voilà, mais c'est ça, les top 3, les Red Alert, on s'amuse et on apprend.
Allez, j'ai été mal poli, mais c'est à toi de donner ton top 3.
Mon numéro 3, alors est-ce que vous allez vous souvenir, ça s'appelle Stranglehold. C'est un jeu d'action typique, vraiment hommage au film de Hong Kong, et tout bêtement parce que c'était chapeauté notamment par John Woo, et l'acteur, son acteur fétiche, Choi Yun-fat, qui donnait son visage au héros du jeu.
Il était trop bien,
c'était la bonne surprise en fait, c'était un jeu vraiment d'action super stylé, donc à la John Woo, un double gun, des saltos partout et tout, et c'est dommage qu'on ait pas eu des remakes et des remises en avant de ce jeu, bon, les questions de licence c'est compliqué, mais c'était une belle surprise de l'époque PS3 360.
Ouais, franchement, j'ai adoré ce jeu à l'époque, vraiment ultra stylé. Pendant que tu fact-check, je balance mon top 2, qui va peut-être t'étonner. Tu l'as, déjà? C'est Ghost Recon Breakpoint. Alors pourquoi je vous parle de Ghost Recon Breakpoint?
C'est lequel? Je mélange un peu tout.
C'est celui avec John Bernthal.
Ah!
Voilà, acteur chouchou, donc voilà.
Marine!
Et non, pas Murray, comme on peut croire. Donc John Bernthal, le chouchou, le chouchou, voilà. Le Punisher, il a joué dans plein de films, le dernier film Williams avec donc de Will Smith sur la carrière des sœurs Williams. Il a joué dans Le Loup de Wall Street,
Walking Dead,
il crève l'écran à chaque fois qu'il est là. Chouchou, j'adore Ghost Recon Breakpoint, voilà, il fallait le nommer.
Voilà, très bien.
Petite mention histoire 2, j'aurais pu parler de Call of Duty Infinite Warfare avec.
C'était pas Kevin Spacey?
Kit Harington.
Ah, il y a eu un Call of avec Kevin Spacey. Ouais, aussi,
un petit Kit Harington, un méchant, on y croit pas du tout, mais voilà, ça fait toujours gueulerie.
Alors, Stranglehold, c'était bien la génération PS3 360, donc c'était un jeu Midway, rappelez-vous, Midway. Ouais. Mon
c'est
numéro 2,
top 2.
Brutal Legend.
Ah ouais.
Jeu, alors, édité par Electronic Arts, mais développé par Tim Schafer et son studio Double Fine, et qui met en scène un avatar de Jack Black, donc l'acteur bien connu et tellement apprécié, voilà, dans un univers métal. Alors c'est un jeu qui est très particulier, un peu action, un peu aventure, un peu plateforme, avec des phases similaires TS. C'est un espèce de pot pourri qui en fait pas un grand jeu, je trouve, mais qui a vraiment qui a vraiment une âme, comme on dit, qui a vraiment quelque chose, et qui est super cool. Alors apparemment il a pas trop bien fonctionné, donc c'est un petit peu dommage.
Je pense pas, de mémoire il y avait des boss qui étaient des stars, genre Ozzy Osbourne, je sais pas s'il a pas donné sa voix à l'un des méchants,
c'est possible.
Et il y avait
donc on sent vraiment, voilà, une passion pour l'univers du métal au global, et donc chacun vient faire son petit coucou dedans.
Très stylé. Et en top 1, comment il peut en être autrement, c'est Michael Jackson Moonwalker. Eh oui, monsieur. Mais est-ce que tu savais que c'était ce jeu, un jeu en 3 versions différentes, un jeu différent par plateforme? Ça, c'était l'époque.
Ça, c'était l'époque. Ça.
Un jeu arcade, un jeu console Sega, donc un jeu sur Master System, Mega Drive et Game Gear, en fait, hein, il faut le dire, et ordinateur. Et en fait, chaque jeu était différent, avait 3 vues différentes pour 3 genres différents.
D'accord.
Donc le Beat'em All 3D ISO, c'était en arcade. Le jeu de plateforme action 2D, c'était
le plus connu.
Le jeu console, celui que j'ai fait moi, perso, sur un Master System. Et le vu du dessus, c'était sur ordi, c'était genre un Metal Gear de l'époque, mais avec Michael Jackson.
Alors déjà, tu dis ordi, donc ça montre que tu as 100 000 ans à peu près. Mais c'est un des jeux Sega qui me faisait un petit peu baver, moi, sur ma Super NES, parce que évidemment on était tous fans de Michael Jackson. Hein.
Il était ouf, mais franchement, ce jeu, donc je l'ai fait sur Master System, qui reprenait le court-métrage du
qui
clip.
Qui est un gros délire, hein,
de Criminal. Et vraiment, voilà, moi c'est mon top 1, un jeu de Michael Jackson.
C'est là où Michael se transforme en voiture, non?
Exactement, et qu'il tape des gens dans des bars. Et qui fait des moves de danse avec des angles particuliers et improbables.
On croyait que c'était pas truqué, nous. Donc, on essaie de faire pareil. C'était compliqué.
Quel est ton top 1?
Alors, mon top 1, pas des os, mais je vise la sécurité. Voilà, c'est Death Stranding, évidemment. Alors, non seulement parce que le héros, c'est un acteur connu, qui est pas mon acteur préféré, hein, je dois le dire. Hein,
Norman Reedus, le pote de John Bertal dans Walking Dead.
Tout se recoupe. Mais parce que, voilà, comme Ken me l'a signalé, hein, c'est que même dans les PNJ que tu rencontres, les preppers dans le jeu, bah, c'est des connus, en fait, qui sont modélisés à partir de poteaux de Kojima à droite à gauche. Et voilà, surtout parce que Death Stranding, c'est un super jeu, et plus j'y repense, plus il vieillit dans mon esprit, et plus je l'adore, ce jeu, donc...
Bah vivement DS2, qui ne s'appelle toujours pas Death Stranding 2, mais on l'attend fébrilement. Très beau top 1. À sécurité, mais ça fonctionne.
Voilà, plat du pied, sécurité. J'ai des mentions, si jamais.
Vas-y, bombarde.
Parce que voilà, on s'est rendu compte qu'il y a quand même pas mal de jeux qui mettent en scène des gens connus, donc Cyberpunk 2077, évidemment.
Son DLC.
Son DLC avec Idris Elba. Onimusha 3, donc autant le héros Takeshi Kaneshiro, qui est un acteur japonais très connu, que Jean Reno, évidemment, en tant que sidekick.
La France.
50 Cent Bulletproof avec 50 Cent, hein, y a pas de secret. On a le jeu Def Jam qui met en scène des bastons entre des stars du rap. Beyond Two Soul, Nomad Soul, voilà, beaucoup de projets de Quantic Dream. Quantum Break avec son acteur tellement connu que je n'ai aucune idée de son nom, mais qui a joué dans X-Men.
Oui, et puis même, t'avais aussi Finger Machin, là, de Game of Thrones.
Finger Machin, évidemment.
Tu m'appelles quel c'est?
Si.
Alors, je sais pas son nom, mais celui qui fait toujours des sales coups, là.
Et il y avait Lance Reddick aussi, qui nous a quitté récemment. Willman, te rappelles-tu de Willman, ce jeu de cascade
Bobliné.
Avec merde, comment il s'appelle déjà, Vin Diesel. Délire, gros délire. Et je termine avec le Alone in the Dark qui sort en fin d'année, où les deux héros sont Jodie Comer et l'autre de Stranger Things, le shérif dont je sais plus le nom non plus.
Oui,
vous avez vu qu'on a bossé
le palmachot. Non mais si.
Le J'avoue.
Mais on a bossé le top 3 après les mentions. C'est du fire bullet. On y va. N'hésitez pas à nous balancer vos jeux préférés, votre top 3 des jeux avec des people, avec des gens connus, avec des célébrités.
Voilà.
Et des idées de top 3. Et vous voyez qu'on on prend vos top 3 quand même. Là,
ça vaut le coup, hein. Venez sur le Discord.
Venez sur le Discord. Les top 3 viennent du Discord. Les gens sur du Discord de Third, il est l'heure de repartir voilà
chez Final Fantasy 16
et on va se poser une question. Qu'est-ce qu'un Final Fantasy?
Est-ce que c'est pas la question même à l'heure
de la grande question, une question qui revient inlassablement à chaque épisode, une question qui se pose aussi pour d'autres sagas, Resident Evil, Castlevania, Zelda, des séries qui ont connu plusieurs cycles. Je ne recycle pas du tout une chronique qui a été avortée. Non, j'avais une chronique sur les cycles des grandes sagas et on peut remarquer que voilà, ces grandes sagas, Resident Evil, Castlevania, Zelda, MGS, ont des cycles comme ça. Oui. Mais quand les sagas ont des cycles, quand finalement, par exemple, prenons Castlevania qui est né en tant qu'action 2D, quand aujourd'hui un nouveau Castlevania sort, tu dis, t'as des joueurs qui vont dire « Ah, est-ce encore un Castlevania ?» Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans le sens où il y a eu après les Metroidvania, il y a eu les jeux 3D,
exactement.
Ça n'a pas trop de sens.
Voilà, donc ça montre aussi, arrêtez de râler, s'il vous plaît.
Alors, une question qui n'a pas beaucoup de sens, mais à laquelle on va quand même essayer de répondre, parce que c'est toujours intéressant de rebondir sur la vacuité. Pour les précédents épisodes de FF, on pouvait entendre une phrase assez marrante qui était « C'est un bon RPG, mais un mauvais Final Fantasy », ce qui sous-entendrait qu'il existe une différence entre un bon FF et un bon RPG. Du coup, pour éviter le débat du bon et du mauvais chasseur, on va reprendre point par point les particularités qui caractérisent un Final Fantasy. Vous inquiétez pas, sur cette première partie, on va tracer, vous allez voir. Premier point, est-ce que Final Fantasy est l'œuvre d'un seul homme, d'une seule équipe? Faux. Tout au long de la saga, hein, les équipes, les réalisateurs, les producteurs, tous ont changé. Sakaguchi, Kitase, Matsuno, Tabata, Nomura, Yoshida. Voilà.
Belle liste.
Inutile d'aller plus loin. Deuxième point. Est-ce que Final Fantasy est une appellation qui désigne un monde en particulier ou un univers commun?
Non.
Faux. Le 12 s'intègre, Final Fantasy 12 s'intègre bien dans le monde d'Ivalice, donc dans celui de Vagrant Story et celui de FF Tactics. Les suites directes de FF10 et 13 reprennent leur monde respectif, mais sinon, aucun Final Fantasy ne partage la même planète. L'époque et l'avancée technologique à des peuples présents dans chaque jeu sont aussi tout le temps différents. Attention, néanmoins, FF10 et FF7 sont potentiellement dans le même monde. Mais c'est une vanne de Nojima. Néanmoins, c'est une vanne qui est non réfutée à ce jour, voire appuyée avec FF7 Remake. Si vous voulez en savoir plus, on vous en dira plus.
Achetez un livre.
Troisième point, est-ce que les Final Fantasy partagent les mêmes systèmes de jeu?
Non.
Non, faux. Même si l'ATB, l'Active Time Battle, c'est une marque de fabrique de la série, et ça depuis le quatrième volet, chaque chapitre a instauré un nouveau système de combat, et à l'instar des combats, les systèmes d'évolution, les jobs, magie, ne sont jamais les mêmes. On va dérouler de la même manière, aucun FF n'a le même antagoniste, le même héros ou la même intrigue. Bon, il y a souvent une histoire de cristal, hein, mais bon, ça, on va dire que c'est un lieu commun. Mais du coup, quels sont les points communs entre chaque épisode? Quels sont les codes de cette saga? Alors, il y a bien deux mascottes, les Chocobos et les Mog. Il y a aussi certains noms de personnages, Biggs, Wedge, Sid, qui reviennent quasiment systématiquement à chaque volet. Il y a la monnaie, les Gills, qui, si vous êtes un vrai, vous dites les Gills, ou les Gilous.
Les Gills. Personne n'a dit les Gilous, à part
ça. Non, mais les Gills. Moi, je disais les Gills. Alors, il y a les invocations, où certains monstres, comme les Bombos, les Pampas, les Tombéries, qui sont récurrents, bien que dans le monde d'Ivalice, les invoques ne sont pas les mêmes.
C'est vrai.
Mais bon, j'ai quand même du mal à croire que ce sont ces détails qui transforment un simple RPG en un Final Fantasy. Ça serait trop simple. Sinon, tu prends un FF, tu mets un Chocobo et un Cristal, et c'est fini. Du coup, est-ce que Final Fantasy, c'est un sentiment? Est-ce que FF, c'est le rêve, l'aventure, le dépaysement? Des émotions que seuls quelques jeux peuvent nous procurer, et en particulier, des RPG. Bah oui, des RPG du coup, c'est pas exclusif au FF. Donc ça fonctionne pas, ça nous aide pas dans notre recherche de définition. Et s'il est impossible de trouver une réponse rationnelle à ce qu'est un FF, est-ce que c'est parce que la réponse est émotionnelle? Est-ce que c'est une réponse personnelle qui est à apporter? Une réponse qui est en chacun de nous, comme notre petit cœur? Peut-être. Peut-être, mais en fait, non. En fait, pas pour moi. Tu peux dire faux, là. Pour moi, un Final Fantasy n'a aucune explication de cœur. En fait, c'est très simple, mais pour moi, la saga FF représente le maître étalon du RPG japonais. Pour moi, un FF montre la voie à suivre par le reste de la production. Le fait de dire qu'un FF, c'est quelque chose d'épique, avec une grande histoire qui est géniale, des personnages charismatiques qui vont évoluer au fil des heures avec un système de combat plein de finesse, revient à réduire la saga à un simple RPG. Et c'est pour ces mêmes raisons qu'un spin-off de Final Fantasy reste un spin-off de Final Fantasy, même avec le label FF. Un exemple, Lost Odyssey, un jeu que j'adore et toi aussi. Un exemple qui est évocateur, parce que bien qu'il soit un RPG, un JRPG de grande qualité, avec un univers fantastique, des créateurs de génie, hein, Sakaguchi ou Uematsu quand même, c'est pas n'importe qui, hein, ils ont un rapport avec FF, il a pas la carrure d'un FF, car il avait pas pour vocation d'être la figure de proue de tout un genre. Ça, c'est uniquement pour les FF. Et quand je dis maître étalon du RPG japonais, ce que je veux mettre en avant, c'est que le fait que chaque épisode a un temps d'avance sur le reste de la production, ce qui inclut les succès, mais ce qui inclut aussi les échecs. Par exemple, vouloir faire une grande fresque de plusieurs jeux qui se répondent, tel le MCU avant l'heure, dont le dernier épisode en date est un monde ouvert, le fait que tout ça se casse la gueule est révélateur. Alors là, je parle de la Fabula Nova Crystallis, FF13 et FF15, mais je pense qu'on va y revenir, et on va y revenir, on va parler de FF16. Mais avant, Nico, pour toi,
oui.
Tu as apporté ta réponse à qu'est-ce qu'un FF, c'est quoi un FF, et si tu veux, pour la blague, parce que pour l'anecdote, cette question, on se l'est posée en 2010, donc il y a 13 ans.
Nous étions jeunes.
Sur un site qui s'appelait Console Syndrome, et à l'époque, tu avais répondu.
Dans les commentaires,
on avait posé la question à plus de 15 journalistes sur qu'est-ce qu'un FF, on avait apporté cette réponse, et ce qui est intéressant, c'est que moi, ma réponse il y a 13 ans est plus ou moins la même que celle d'aujourd'hui. En 2010, Nico, tu avais dit « Un FF, c'est un jeu qui sait combiner des gens passionnés et la manne financière nécessaire à accomplir leur vision. Et c'est ce dernier point qu'il manquait à un jeu comme Lost Odyssey pour en faire un incontournable. » Donc la thune, tout de suite.
Voilà, donc je savais que j'allais devenir chef d'entreprise un jour, donc tout de suite pognon.
Est-ce que toi de 2010 fait un écho à ton toi d'aujourd'hui ?
Ça me paraît, oui, je pense être ok avec cette réponse-là, mais ça rejoint ce que tu dis, c'est que pour être un FF, pour avoir l'ambition, pour mener un peu l'industrie et tout ça, il faut que t'aies les moyens en fait. Donc ouais. C'est un peu, on a dit un petit peu la même chose, mais moi avec moins de poésie peut-être.
Tu vois, en deux phrases, tu as le côté synthétique pour toi. Final Fantasy XVI, voilà. On vous a proposé notre définition de FF, et donc il est temps de se poser la même question pour FF16. Est-ce encore un FF? N'hésitez pas, nous, à vous prendre au jeu, à essayer de répondre à cette question, qu'est-ce qu'un FF? C'est vraiment pas simple. Hein. Vous allez voir que c'est un peu galère. Et surtout si vous voulez faire comme Nico, être synthétique.
S'il vous plaît.
Ça, voilà, moi j'ai 30 minutes, je suis tranquille. On va commencer à parler de FF. De FF16, pardon, avec un point qui est l'émotion. Alors, c'est pas ma définition, c'est pas par l'émotion que je définis FF, mais c'est cet aspect de cœur pourra peut-être trouver un écho chez vous avec FF16. Parce que, niveau émotion, FF16, franchement, il secoue. Il propose des scènes fortes, en nombre. C'est un jeu qui marque fort et à plusieurs reprises. Pour ma part, ce FF16, il m'a rappelé pourquoi j'aimais le jeu vidéo. Alors, j'en fais un peu des caisses, mais il m'a rappelé des amours de jeunesse, des jeux de rôle de l'époque. Et le JRPG, c'est grâce à lui que je suis venu au jeu vidéo. C'est presque par là que j'ai commencé. En tout cas, c'est le JRPG qui m'a fait basculer. Et ce feeling, c'est souvent les FF qui me l'ont procuré. Et ce FF16, il m'a fait ressentir des sentiments assez équivalents. Nico, premier point, est-ce que toi, niveau émotion, ce FF16, il t'a fait des hauts le cœur? Est-ce qu'il y a eu des moments forts?
Tout à fait, tu parles de hauts le cœur, et c'est typiquement le genre de réaction qu'on a dans un grand 8, et je trouve qu'FF16 suit une voie qui est tout sauf linéaire, en fait, où il va alterner temps fort et temps faible. C'est vrai que je vois beaucoup de gens parler de gestion du rythme. Un peu.
Oui.
Pour moi, c'est purement volontaire, et ça rejoint, je trouve, l'influence, l'attaque des titans. Pour moi, l'attaque des titans à ce côté où t'as 2-3 épisodes où il se passe pas grand chose, tu vas te faire presque un peu chier, mais sans jamais vraiment tomber là-dedans, parce que ça va te préparer à une montée d'adrénaline de ouf avec une séquence d'un épisode qui va te mettre par terre. Et je trouve que je préfère cette gestion-là du rythme vraiment complètement alternative, en fait, et qui est capable, justement, enfin, sans calme, sans bas, tu peux pas proposer des hauts aussi dingues, en fait. Donc, c'est pour ça que moi, je vais pas parler d'un mauvais rythme ou d'une gestion de rythme pas terrible, mais vraiment, au contraire, d'un travail sur la gestion de ce rythme, quoi.
Eh ben écoute, je suis entièrement d'accord avec toi. Si le jeu avait été tout le temps à 200 à l'heure, ça créerait une monotonie, et même si on est tout le temps à balle, on finit par se rendre compte qu'on va pas si vite. Donc c'est normal qu'il y ait ces temps plus bas pour créer justement du mouvement. Il faut être dans l'évolution de l'émotion, et moi je suis entièrement d'accord avec toi. On fera un point à chaque fois sur est-ce que c'est un Final Fantasy ou pas, sur la charge émotionnelle. Les FF sont reconnus pour leur scénario et pour leur charge justement forte en émotion. Moi, je dis oui, en tout cas.
Oui, et surtout qu'ils s'autorisent des choses que les anciens FF peut-être rechignent à faire en allant assez loin dans tout ce qui est violence, dans tout ce qui est même les relations entre les personnages, tout ça, quoi.
T'inquiète, on va y revenir sur ce point. Second point, la place de la licence dans l'industrie, dans le paysage vidéoludique. Ça, Nico, tu nous as fait un point très complet, donc on va aller assez vite. Je vais néanmoins insister sur une chose, c'est que médiatiquement, c'est le seul JRPG à avoir une aura aussi grande. Aujourd'hui, Final Fantasy garde sa place. Aucune franchise, aucune série ne peut réaliser avec FF dans le domaine du JRPG. C'est la plus populaire, et qu'on le veuille ou non, qu'on aime le jeu ou non, qu'il soit GOTY ou non, Final Fantasy XVI, c'est un moment important de l'année. Et sa sortie restera un événement. On va pas commenter les débats nuls ou les dramas, mais voilà, Review a fait une sortie qui a été très commentée, et on va pas commenter tout ce que je veux dire, c'est que des fois, comme pour Starfield, on a des goûts, on a des penchants, Starfield nous branche pas spécialement. Néanmoins, on est conscient et on va dire que Starfield est un moment important de l'année pour plein de gens. Oui. FF16, on peut ne pas aimer FF, on ne peut ne pas aimer le JRPG. Difficile, je pense, de dire que non, FF, on s'en fout et il ne sera pas important, ce sera pas un moment de l'année important.
Ouais, et d'autant plus sur une année 2023 qui ne manque pas justement de ces pics, de ces moments importants. On a du Diablo, on a du Street Fighter, on a du Zelda, on a du Hogwarts Legacy.
Incroyable.
Et malgré tout, FF, c'est un événement qu'on avait tous coché sur notre calendrier. Ça sera l'un des moments forts de l'année, quoi qu'il arrive.
Ouais. Un petit mot aussi sur l'aura. Est-ce qu'on peut se poser la question? On s'est posé rapidement la question sur la première chronique. Est-ce que l'aura de la série a baissé? C'est compliqué, je trouve, de dire que oui ou non, parce que sur quoi on se base? Comment on va jauger le fait que l'aura de la série a baissé? Tu as parlé des chiffres tout à l'heure. FF15, donc qui est le précédent épisode, c'est quand même le second épisode le plus vendu. Donc FF7 est certes à 14. Tu as parlé de Capcom, de la belle énergie qu'ils avaient à faire augmenter les chiffres de vente sur Resident Evil. C'est certes, Final Fantasy VII reste le premier, parce que bah, c'est normal, c'est le meilleur, mais le second, FF15, bah, c'est quand même lui, le dernier en date.
Oui, mais à quel prix? À combien de soldes et de baisses de prix?
C'est clair, mais même, je pensais que t'allais dire il est pas rentable. Je vais dire, ça c'est pas mon problème, mais
après,
il est rentable.
C'est aussi possible qu'il ne soit pas rentable après ce développement catastrophique. Après, il y a quand même des indicateurs, ça vaut ce que ça vaut, mais t'as des notes métacritiques, t'as aussi bah, le ressenti des joueurs a posteriori.
Ça, c'est dur à jauger. Là, j'essaie de me baser un peu, tu vois, sur des trucs un peu plus prosaïques. FF15, certes, il y a des contre-arguments, des arguments. FF14, le précédent, c'est de loin le plus rentable et c'est celui qui a le fédéré le plus de joueurs. Donc, nous sommes à FF16. Les deux précédents ont quand même pour eux d'avoir apporté des joueurs et des ventes.
Après, le MMO, je trouve que ça reste quand même un cas à part.
C'est vrai, c'est un cas à part. Mais il a un numéro.
C'est vrai.
Est-ce que, toujours pareil sur cette question d'aura, est-ce qu'il y a moins de jeux? Tu as parlé tout à l'heure de distance dans le temps entre le 15, le 16, entre le 13, le 15. Et si on regarde... Et là, hélas, je triche peut-être un peu, mais FF14, depuis sa première mise à jour, donc la importante, la Rim Reborn, celle de Yoshida, depuis 2013, des mises à jour conséquentes, il y en a une tous les 3 ans. Donc ça a été...
Ça triche un peu.
D'accord. FF15, 2016. FF7 Remake, 2020. FF16, 2023. FF7 Rebirth, 2024. On a 4 jeux majeurs. Et FF14, donc tu me dis je triche, mais bon, c'est important quand même. On a quand même la saga Final Fantasy qui est comme ça cadencée de façon assez régulière.
Ouais, bon après, tu vois, entre 97 et 2001, t'as eu FF7, 8, 9, 10. On était sur du Call of Duty, quoi, en termes de rythme.
Eh ben, je suis bien d'accord avec ce que tu dis. Et la différence, c'est peut-être qu'on n'était pas dans la même époque. Comme le fait que les FF divisaient. Certains vont dire, ah ouais, mais là, FF16 divise, ce n'était plus le cas. Est-ce que les FF ne divisaient pas à l'époque? Ah bon? FF8, ça a été... Le monde s'est arrêté tellement il y a eu un schisme entre les fans de FF7 et les fans de FF8. Sauf que FF7, c'est celui-là qui a atteint le monde entier, qui a été exporté en Occident. Donc avant ça, on avait du mal, nous, à dire ouais, ceux qui ont fait FF6, alors qu'ils s'appelaient FF3 aux US, bah, est-ce qu'ils râlaient? Et comment on râlait? Le monde n'était pas le même, les temps de production n'étaient pas les mêmes, on faisait un jeu... Les Megaman, tu veux que je te rappelle que c'était un par an? Enfin, le monde n'était pas le même, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas ces caisses de résonance qui fait que les jeux ne pouvaient pas faire l'unanimité, ou justement faisaient l'unanimité, il y avait tout et son contraire. Aujourd'hui, c'est compliqué d'entendre tellement il y a de bruit.
Oui, et puis t'es certain que si Internet avait existé à la sortie de FF6, t'aurais eu des gens qui auraient dit « Ah là là, ça y est, ça devient steampunk, c'est n'importe quoi, rendez-moi Kane et Cécile. »
J'avais un petit mot sur la démo qu'on a évoqué tout à l'heure. Tout ça pour dire qu'il y a voilà un investissement massif de Square Enix sur cette démo, la confiance, beaucoup d'argent dans la communication, ce qui montre que ils ont, je crois, moi, une confiance en FF16. En tout cas, la réponse, est-ce que c'est un FF? Est-ce que FF16, aujourd'hui, tout le monde s'est arrêté, c'est son jour de sortie, pour savoir s'il est convaincant, s'il a plu, est-ce qu'il va se vendre? Final Fantasy reste la licence de JRPG la plus populaire.
Oui, et puis on a vu hier, à partir de la levée de l'embargo, tout le monde parlait que de ça, quoi. Enfin, moi, j'ai lancé mon YouTube, j'avais que des vidéos sur FF16.
Donc, est-ce que Final Fantasy XVI est un FF sur ce point de vue, dans sa place dans l'industrie? Pour moi, oui.
Pour moi, oui.
On va passer cette fois à l'ambiance. L'ambiance et les inspirations, tu nous en as parlé. On va pas se mentir, Game of Thrones est là, est bien présent. Hein. On s'est pris de plein fouet une vague de jeux inspirés par Game of Thrones, même chez Square Enix. Hein. Il y a Triangle Strategy, Deophil Chronicle, mais pas que. C'est quelque chose qui a infusé dans l'ensemble de la pop culture. S'inspirer de Game of Thrones, bah, c'est quelque chose qui est contemporain, c'est quelque chose dans l'air du temps. L'inspiration est assumée, hein, et flagrante. Hein. La core team a même reçu un coffret et la consigne de la regarder, quand ils étaient que 30 au début, ils ont dit « il faut s'inspirer de Game of Thrones ». Tu as un petit peu évoqué tout à l'heure le fait que ça soit très violent, il y ait du sexe, ça soit très cru. Ouais, là, clairement, l'inspiration à la Game of Thrones, elle est là. Des jeux violents et crus, on en a eu précédemment, c'est clair, mais pas ce niveau de violence là un peu outrancière, tu vois, genre oh là là, il y a du sang, c'est un peu
Oui, puis t'as ce côté un peu sans pitié où on va pas hésiter à t'enlever des gens qui voilà quoi, qui étaient importants machin, mais au-delà, enfin c'est vrai que Game of Thrones, enfin on peut parler de dark fantasy même au global, enfin comment ne pas s'inspirer, enfin Dark Souls c'est de la dark fantasy,
bien sûr.
Comment ne pas s'inspirer du plus gros succès du jeu vidéo des 10 dernières années et de la série télé la plus influente de ces 10 dernières années aussi, quand tu veux faire de la dark fantasy, enfin ça me paraît compliqué quoi.
Exactement. Alors OK, Matsuno hein, fait des jeux matures, politiques, violents, mais clairement c'est pas que l'inspiration de FF16, et si on doit chercher dans l'héritage même de la série Final Fantasy, bah ce FF16 il ressemble quand même à FF14 dans les esthétiques et bah, vu l'équipe de développement.
Mais c'est vrai qu'on sent quand même, alors je vais pas parler d'un tribut, mais quand même une volonté de s'inscrire dans la lignée de ce qu'a pu faire Matsuno à certains égards quoi.
Oui, c'est vrai. Et ce que je veux dire, c'est que l'équipe en elle-même de développement, elle assume le fait que Game of Thrones est une inspiration. Donc voilà, pourquoi vouloir faire les anciens plus que de raison, tu vois. Alors juste, tu l'as évoqué là très rapidement, l'équipe de dev va pas pouvoir difficilement dire le contraire qu'elle s'inspire de Game of Thrones. Il y a au moins autant de références à Game of Thrones qu'à Final Fantasy. On parle du prologue, on peut parler de la map. Si vous regardez la map, c'est
oui, elle a ce côté un peu diorama comme le générique de Game of Thrones.
Ils ont eu le coffret.
Ouais, non, mais enfin, ils s'en cachent pas. Et je trouve ça courageux de leur part plutôt que de vouloir dire ah, non, t'inquiète.
C'est Matsuno qui nous a tout inspiré.
Ouais, mais on peut jouer au jeu des 7 ressemblances. C'est rigolo même.
Oui, carrément. Un sujet un petit peu connexe avec les inspirations et l'ambiance, c'est la mise en scène. Alors dans FF16, l'histoire, je trouve qu'elle nous est racontée un petit peu comme une série ou comme un film. On suit pas uniquement le héros tout le temps. C'est très cinématographique. Alors, ce que je veux dire là, c'est que tu vas avoir des hors-champs. C'est que tu vas voir très très souvent ce qui se passe dans les autres contrées, ce que font les ennemis. Ben, en fait, comme une série, tu vas pouvoir des fois poser ta manette pendant 15 minutes et tu vas voir un petit peu comme Game of Thrones, hélas, ben, ce qui se passe dans chaque faction. Alors, dans les précédents FF, on pouvait voir de temps en temps ce que faisait le méchant, t'sais. Mais c'était très je suis Kefka.
J'empoisonne
le truc. Et c'était une fois ou deux. Dans FF16, ça n'a rien à voir. C'est au même moment, dans tel endroit, à Guadalumpur, il se passe.
Je suis Mass Sephiroth qui est bloqué dans son cristal pendant ce temps-là. Putain, je me fais chier.
Donc, c'était pas dans cette même mesure-là. On est vraiment très très souvent coupé pour de la narration. Il y a même plusieurs temporalités. C'est une narration assez commune dans le monde de la série. Nico, au niveau de la narration, est-ce que t'es OK avec ça?
Je suis carrément d'accord. Le jeu est découpé en espèces de chapitres. Il y en a un paquet, hein, donc. Mais tu peux, si tu prends un peu de recul, délimiter des espèces d'actes en fait, des arcs.
Voilà.
Non, mais comme tu l'as dit, vraiment en termes de saison, c'est-à-dire que pendant 4 heures de jeu, tu vas être sur un arc scénaristique avec un enjeu et peut-être un méchant, quoi, quelque part.
Antagoniste.
Et quand t'as fini ça, tu vas revenir sur un autre personnage que t'avais perdu depuis 3-4 heures qui va reprendre sa place aussi. Enfin, t'alternes entre différentes un petit peu évolutions, fait un peu fil scénaristique quoi.
Alors FF16, il est inspiré par Game of Thrones. Ok, on a compris dans son ambiance, dans sa mise en scène, mais le jeu, je trouve, garde quand même son statut de jeu vidéo. Et ça, c'est super important. Et il use de son statut de jeu vidéo pour faire ce que Game of Thrones ne pourrait pas faire, c'est-à-dire une histoire hyper impressionnante, impossible à retranscrire en film ou en série live. Ou ben, dans ce cas, il faudrait au moins le budget de deux blockbusters pour faire un seul épisode de 50 minutes digne de ce Final Fantasy VII, car on enchaîne les scènes cultes, les scènes grandiloquentes que une série, enfin, ou en tout cas Game of Thrones, ne peut pas faire. Mmh. Ça reste du jeu vidéo. C'est comme le cinéma d'animation. Certains films d'animation profitent de leur statut pour justement dépasser les bornes, faire un truc complètement inenvisageable en live. Et FF16, elle le fait, quoi. Mmh.
Bah toujours pareil, je pense que si vous avez fait la démo, c'est assez représentatif de ce que peut rendre le jeu, mais évidemment quand t'as les c'est les primordiaux qui rentrent en scène et qui se font des bastons, on atteint des niveaux de spectaculaire, de mise en scène et tout qui sont comme tu dis infaisables en live action ou en...
Donc on a répété Game of Thrones, mais tu nous l'as évoqué, l'attaque des Titans, Evangelion, c'est quand même des inspirations qui sont assumées mais difficiles à nier, les combats de primordiaux dont un qui s'appelle Titan. Enfin, invocation d'historique de Final Fantasy, mais son look, son apparition, la façon dont on joue sur la grandiloquence, la verticalité, les plans de caméra,
la taille de ses dents,
non, même la représentation de ce titan, on y est en plein là-dedans, et on l'a évoqué, la charge émotionnelle, je trouve certaines fois dans l'attaque des titans.
Oui, mais encore une fois, voilà, en série récente qui propose de l'intensité, des moments forts et une ampleur de ouf, évidemment, tu cites attaque des titans, ça serait bête de pas s'en inspirer. Après, tout le débat au final, c'est de savoir est-ce qu'ils arrivent à s'émanciper de l'inspiration ou pas.
Mmh. Un dernier point sur l'ambiance, on est sur ce point-là, avec évidemment les musiques qui sont cette fois, Oman Soken. Ça n'a pas toujours été Uematsu, hein, Sakimoto a fait par exemple la partie, enfin le fidèle de Matsuno a fait la partie sur Final Fantasy XII. Moi, j'ai pas fait FF14, j'ai un peu fait mes devoirs en écoutant les certains mises à jour de FF14 avec la bande son de Soken. J'ai remarqué quelque chose qui est commun, c'est qu'il est à fond sur les chœurs. Mmh. Et je pense que c'est très important dans Final Fantasy XVI. Ils sont extrêmement mis en avant, à tel point que même la fanfare très connue est cette fois un chœur. Mmh. On n'entend que ça. C'est omniprésent et c'est, je trouve, très différenciant des autres Final Fantasy et ça prend au trip, quoi.
Ouais, toutes les scènes à enjeu, t'as avoir des musiques avec des chœurs et on en a même parlé entre nous, c'est-à-dire que le premier trailer du jeu a été dévoilé. T'avais des chœurs dans la BO, donc c'était vraiment la note d'intention, quoi. C'est quelque chose qu'ils ont voulu, qui était volontaire et qui est vraiment leur axe principal, quoi.
Ouais. Bon. Difficile de se poser la question, est-ce que c'est un Final Fantasy ou pas, quand on parle d'ambiance, d'inspiration, même de musique. En tout cas, je trouve que ça fait le taf. Ce qui définit Final Fantasy, c'est créer des ruptures entre chaque épisode. Et là, c'est intéressant de voir à quel point on est dans une rupture de ton, d'ambiance vis-à-vis de FF13 et FF15. Mais c'est significatif et c'est fondamental. C'est la définition d'un FF.
Rupture et ambition, et on est en plein dedans, quoi.
Donc, on est sur deux oui. Passons cette fois à la technique. Tu l'as aussi évoqué, on s'est bien complété. Ça tombe bien. On est sur un côté technique, sur un Final Fantasy qui est, à mon sens, très propre, très stable, pas de bug. Le jeu, comme le Zelda Tears of the Kingdom, aurait été terminé il y a plusieurs mois. Des rumeurs parlent même de un an de polish et de debug. En tout cas, voilà, nous, on peut vous dire que on n'a pas eu... Moi, j'ai pas eu de crash. C'était extrêmement propre.
Pas eu de crash, pas de bug. On n'est pas sur un jeu qui repousse les limites et qui va t'en mettre plein la gueule à la God of War ou quoi. On n'est pas sur une claque. Mais le jeu est méga beau. Et notamment, je trouve la gestion de la lumière, que ce soit la lumière en naturel, on va dire soleil ou quoi, ou les flammes, tout ça, je trouve qu'il y a des moments, il décroche quand même la mâchoire, faut pas
ça esthétiquement, c'est magnifique. En tout cas, graphiquement, j'ai un petit mot, c'est que je suis aussi d'accord avec toi, ce FF est magnifique. C'est pas le jeu qui a les mêmes ambitions, tu vois, par exemple, que FF15, dans tous les sens du terme, parce que c'est, par exemple, ce n'est plus un monde ouvert, mais il y a une raison à ça. Le genre du JRPG, il est plus compatible avec l'industrie actuelle. Impossible de faire un Final Fantasy avec l'ambition d'un FF sur une machine contemporaine. La preuve, elle est simple, FF7 Remake. Pour faire FF7 aujourd'hui, il faut 3 jeux et autant de budget de AAA. Donc imaginez-vous faire quelque chose de l'ambition des FF de l'époque en un seul jeu, c'est impossible, c'est inenvisageable. Et ne pas faire un monde ouvert, c'est en réalité une solution pour contourner l'échec de FF15 et proposer un jeu qui est propre, avec un développement, semblerait-il, tu l'as évoqué, assez stable. Et on en parlera la semaine prochaine, hein. Mais ce modèle de monde semi-ouvert, je pense qu'il va servir à un autre jeu, un jeu qui sort next winter. Donc, question technique, est-ce que c'est un Final Fantasy? Est-ce qu'il est là pour repousser les limites? Oui et non, il est esthétiquement magnifique, il est vraiment sublime. Est-ce que c'est la pointe? Peut-être pas, mais c'est le Final Fantasy qui va un petit peu, ce que je dis, donner la voie et le chemin à suivre pour dire, si vous voulez faire un JRPG aujourd'hui, c'est cette façon de faire et pas une autre.
Après, il a une approche, on l'a dit plusieurs fois, rationnelle, même en termes de direction artistique. Exactement. C'est l'anti-FF13, où là, t'as quand même des panoramas, des idées un peu folles, mais qui restent toujours assez capable de se fondre dans un environnement plus réaliste et tout. Oui. Et je pense que cette approche rationnelle peut marquer un petit blocage pour justement les vieux fans de FF qui sont habitués à la débauche, autant artistique, tu vois, même les car design des persos sont réussis, sont marquants, mais ont moins de singularité, de folie, tu vois, que les épisodes un petit peu traditionnels.
Oui.
Et c'est vrai que, alors, t'es pas encore à ta conclusion, j'imagine, mais on avait cette fameuse phrase de FF15 pour les...
oui, vas-y.
C'est quoi, les anciens et les nouveaux?
Pour les fans et les nouveaux venus.
Qui nous a un peu rigolé, parce que ça veut dire que c'était pour tout le monde. Mais je pense que ce FF16 est beaucoup plus imaginé pour les nouveaux venus, finalement.
Ah.
Et que... Peut-être que on verra, hein, et ce qui est pas ton cas en tout cas, mais peut-être que les vieux fans seront ceux qui seront le plus
rétifs à ça.
Ouais.
Mais ce qui est normal, si t'es un vieux fan et que tu veux retrouver ton sentiment d'antan, c'est normal. Après, Final Fantasy, en tout cas pour moi, pardon, c'est que Final Fantasy, c'est la locomotive, c'est le chef de file, c'est celui qui montre la voie. Donc finalement, c'est normal qu'il y ait un petit peu de réticence.
Ouais, mais tu vois, toi, t'es un profil qui a l'air de kiffer FF16, ouais. Mais t'as un profil de vieux fan, mais t'es aussi quelqu'un qui va jouer au AAA d'aujourd'hui, du Last of Us, du Spider-Man, qui aussi suit l'actu du jeu vidéo, voir dans quelle direction elle va. Et je pense que c'est pour ça aussi que t'as peut-être pas ce décalage sur FF16 que peut avoir quelqu'un qui reste un petit peu engoncé dans ses JRPG, c'est ma life. Et,
ok, mais ce type de joueur, ce profil de joueur, il ne jouerait pas non plus à tous les JRPG, parce que FF a subi une mutation que l'industrie a aussi suivie. Donc l'ensemble de l'industrie aujourd'hui a ce regard porté vers l'avant. Mmh. Et il y a quelques RPG qui sont justement néo-rétro et qui sont là, eux, pour créer un écho au passé. Mmh. Donc faut voir ce profil de joueur. Est-ce que il joue pas aux jeux actuels occidentaux AAA, mais il joue pas non plus aux gros JRPG. Il fait du rétro gaming. Allez, on passe à l'histoire. Et bizarrement, tiens, regarde sur mon plan, l'histoire, elle est toute petite, mon segment sur l'histoire, parce qu'on est sur quand même un schéma très classique, une histoire personnelle, une histoire de vengeance, et qui va s'ouvrir une histoire micro, qui va devenir macro, qui vont intégrer des enjeux politiques, des enjeux mondiaux. Évidemment, il va falloir sauver le monde à la fin. On a quelque chose aussi de sous-jacent, on a un message actuel, écolo, politique, mais ça, c'est comme à chaque fois avec Final Fantasy. Donc... finalement, est-ce qu'il y a grand chose à dire de plus?
Comme tu dis, on reste sur un classique pour un Final Fantasy, mais ça ne veut pas dire que c'est pas réussi.
Exactement.
Après, encore une fois, moi, je suis qu'à la moitié, donc je pense que le reste du jeu va prendre une ampleur aussi, il va amener vers quelque chose d'un peu...
Alors ça, il y a un point à la fin, tu verras, est-ce que c'est encore un jeu japonais? Je peux vous dire que ça part en cacahuète. Tel un bon jeu japonais.
Ouais, bon, déjà, j'ai vu 2-3 trucs là-dessus, mais en tout cas, c'est classique, mais efficace. Pour l'instant, moi, je trouve ça très efficace.
Ouais. Un petit mot, néanmoins, sur ce côté Final Fantasy à la tête, sur le côté progressiste, sur le côté le traitement des personnages féminins, il est pas dingo. C'est-à-dire que les personnages féminins sont magnifiques, le chara-design est vraiment très réussi, mais la place de chacun de ces personnages féminins, on l'a même vu dans Game of Thrones, ça aurait pu être mieux fait. Tu vois, il pourrait y avoir des personnages qui ont d'autres archétypes, qui ont d'autres façons de faire, qui auraient été plus forts. Et ça, je trouve ça, entre guillemets, un peu dommage que Final Fantasy ne soit pas une tête de file, quoi. Moi, vous savez que j'aime bien FF7, FF7, il y a quand même une certaine forme de diversité à l'époque, un message écolo. Il y a des choses qui étaient à l'avance.
Ouais, alors ça c'est un point très important et je pense on fera certainement un X sur le sujet quand Damien par exemple aura fait le jeu. Et il y a des choses à dire parce que là sans spoiler ça sera très très compliqué. C'est vrai que Jill, l'une des héroïnes qui t'accompagne, est assez effacée, n'a pas une place prépondérante. Après tout ce qui concerne un autre personnage, j'ai trouvé. À mon sens, je trouve que les gens sont passés à côté un peu de quelque chose. Donc, mais je peux pas en dire plus.
Tu peux même pas me dire le nom de du personnage.
C'est par exemple le personnage Bénédicta.
Bénédicta.
J'ai l'impression que j'ai pas la même lecture que d'autres personnes, mais ça serait intéressant.
Ah ouais, ça serait carrément intéressant. Juste un petit point parce qu'on en a parlé en off, genre on est à la radio, de cette personnage de Jill qui est l'émissaire de. J'ai le droit de le dire ça. Bon, c'est l'émissaire de Shiva, de son temps, on l'a vu dans la com partout.
Oui.
Et elle est, moi je trouve son design magnifique, j'adore le personnage, vraiment je le trouve sublime, j'adore son caractère. Après, il est discutable, mais je la trouve attachante. Mais le fait que, toi tu m'as fait remarquer qu'elle était très peu caractérisée, ou en tout cas très peu marquée sur son visage.
Il y a certains PNJ qui ont un visage plus expressif et plus singulier qu'elle. Pour le coup, elle a un visage assez lisse,
ouais.
Qui fait vraiment PNJ de deuxième zone.
Ouais.
Même.
Et pour le coup, je pense, et je suis quasiment certain que c'est ultra volontaire. volontaire parce que c'est l'émissaire de Shiva et que c'est un personnage de glace qui est vraiment stoïque et qui est de marbre.
Bah, t'as une corrélation entre les persos, les primordiaux et les dominants. J'ai les termes anglais.
Et oui, tu vas jouer. Bon, et franchement, on est sur un raid alert. C'est pas le X. Oui, il sera l'occasion de revenir en détail sur tout ça dans sûrement un Surstrike EX cet été. Donc, est-ce que c'est un Final Fantasy ou pas au niveau de l'histoire? Moi, je suis sûr un oui, hein, quand même.
Bah, carrément, oui.
On va passer, voilà, petit gros morceau là. Petit gros morceau, les combats de Final Fantasy XVI. Alors là, on est sur de l'action RPG, on est sur du beat'em all RPG. Donc, c'est chelou, mais on va voir qu'est-ce qu'il en est. Donc, on a beaucoup mis en avant, la com a vraiment mis en avant Ryota Suzuki, un ex de Capcom qui est venu, qui est le lead designer des combats sur ce FF16. Néanmoins, le storytelling, attention, il a bossé sur Dragon's Dogma et sur DMC5. Il était designer et il faisait partie de l'un des 16 designers de DMC5. Donc, c'était même pas le lead.
Oui, c'est pas le créateur.
C'est un mec qui a de la bouteille. Hein. Oui. Il a bossé même sur les premiers DMC. Bon, il a un remerciement. Il a bossé sur des jeux de combat. Il sait ce qu'il fait. C'est un ex de Capcom. Il a apporté sa pierre à l'édifice. Il dit lui-même que c'est son chef-d'œuvre. Franchement, c'est plutôt stylé. Néanmoins, pour ce FF16, tendre de plus en plus vers l'action, moi je trouve que c'est normal. C'est le futur, et c'est la logique. Et c'est même une logique qui est amorcée dans les Final Fantasy depuis FF10. FF10, c'était la fin de l'ATB. FF11, donc le MMORPG en ligne, c'était quand même 2 ans avant World of Warcraft. Donc niveau avance, pas mal. FF12, c'était un MMORPG hors ligne. 4 ans avant Xenoblade. FF13, c'était un ATB. Retour de l'ATB, mais boosté, très accessible. Et l'introduction de l'état de choc, le stagger. Ça vous dit quelque chose? On le voit partout, le stagger. Mais c'était déjà là. FF15, c'était de l'action RPG, déjà. Où on contrôlait un personnage qui était assez passif, où il suffisait d'appuyer longtemps sur le personnage qui était... C'est lui, je me suis gouré, c'est lui qui était très accessible, qui était vraiment là pour inviter ses nouveaux joueurs. Et on a FF7 Remake, qui est un mix entre du tour par tour et de l'action normale. Néanmoins, là, c'est tout à fait logique, parce que c'était le pont entre 2 générations de jeux. Ce que je veux dire, c'est que le fait que le système de combat soit un beat'em all, n'invalide pas le statut de RPG de FF16. Par exemple, la suite de Persona 5, qui s'appelle Persona 5 Strikers, c'était un Musou. Surprise, hein, c'est un RPG quand même, c'est la suite directe scénaristique de Persona 5 et c'est tout autant un RPG que Persona 5. C'est pas parce que c'est un Musou que directement, ça y est, on est sur Dynasty Warrior. Le fait que FF16 ait choisi de dynamiser encore plus ses combats est pour moi normal, c'est le sens de l'histoire et c'est ce qui fait vendre, tu l'as évoqué tout à l'heure. Ça peut paraître un choix radical, mais les FF ne sont faits que de ça, de choix radicaux. Ça crée à chaque fois une rupture entre chaque épisode, et plus que la rupture, vous le savez, pour moi, c'est le FF qui désigne la voie à suivre. Donc là, on voit une logique très claire dans la dynamique de plus en plus d'action des Final Fantasy pour convaincre de plus en plus de gens. On y est. Après, la question du genre, franchement, on s'en fiche. Tous les gros jeux actuels, ils sont le fruit d'une hybridation de genre. Et Yoshida l'a évoqué, son envie de s'éloigner de cette appellation de JRPG.
Je sentais même que ça l'agaçait un petit peu, ces questions.
Et pour lui, c'est très réducteur. Et franchement, je peux le comprendre. Un FF, son but, c'est repousser les limites. Ça repousse les limites de ce qu'est un JRPG. Final Fantasy, ça questionne le genre, ça va même le défier. Donc réduire un FF à une appellation, à un genre un peu rétro... Je pense que ça peut paraître vexant. Et on vous l'a déjà annoncé, nous, on va vous en parler de ça dans un livre qui sort en décembre, qui s'appelle « Enquête de JRPG », qui va décrypter qu'est-ce que c'est un JRPG, cette appellation, qu'est-ce qu'elle va charrier avec elle. Et donc, voilà, moi, je suis plutôt, pour le coup, Team Yoshida. C'est vrai que c'est un peu bébête, on s'en fiche. JRPG, ça a une connotation rétro qui va amener du feeling, des sentiments, tu vois, avec ça. Mais... aujourd'hui, FF16, est-ce que c'est un JRPG, pas un JRPG, c'est du beat'em all?
Ouais. Alors, je suis assez d'accord avec toi. Le truc, moi, c'est que j'ai entendu des gens qui disaient, ah, mais regardez, tel truc, c'est pas un RPG. Enfin, tu peux pas en faire un reproche quand c'est affirmé par l'équipe de développement, en fait, et que c'est même, revendiqué, tu vois. Enfin, eux-mêmes te disent, on veut pas faire un JRPG, donc, c'est compliqué de dire, ah, regardez, c'est pas un JRPG. Moi, c'est pas tant dans les combats, mais c'est vrai qu'il y a plein d'aspects, que ce soit la question de l'expérience, de l'arbre de compétences, de l'équipement, qui sont pas forcément présents et qui en font peut-être quelque chose d'éloigné du RPG, hein, mais.
Ouais, on va y venir juste après. Ouais.
Moi, c'est sur les combats où je vois un vrai truc un peu, qui me titille un petit peu. La volonté de faire de plus en plus d'action, tu l'as dit, c'est affirmé, c'est quelque chose de fort, et on voit qu'ils veulent aller là-dessus. Par contre, je trouve qu'en allant lorgner du côté du beat'em up à la Devil May Cry, finalement, ils sont partis d'une niche pour aller dans une autre. Parce qu'un Witcher, c'est pas du tout un jeu d'action beat'em up pointu. Et je pense que c'était plus cette voie-là qu'il fallait viser si tu voulais taper le grand public.
Oui.
Enfin, un beat'em up, on l'a vu, à part DMC5 qui a vraiment cartonné de ouf, ça reste des jeux aussi niche, et aller viser un système aussi intimidant, aussi, alors sans dire complexe, mais qui a plein de variables et qui demande quand même un minimum de skill manette en main,
dextérité, ouais.
Même si tu peux appliquer, on l'a dit, les anneaux qui vont faciliter le jeu, et que c'est peut-être aussi un des défauts d'FF16, c'est qu'il est pas du tout compliqué pour l'instant, je trouve, moi. Mais je trouve ça étonnant d'aller lorgner sur le beat'em up DMC, qui pour moi est aussi niche que le JRPG.
Ouais. Quoi. Alors je trouve ça très intéressant ce que tu dis. Juste un petit détail, c'est que il y a la team de Kingdom Hearts et de Platinum qui serait venue aider. Kingdom Hearts, ça se vend pas mal. Mmh. Et Platinum, ils ont fait le système de combat d'un autre jeu qui s'appelle Nier Automata et qui s'est plutôt pas mal vendu, ce qui pourrait un petit peu, peut-être, expliquer ouais. Le fait que je suis d'accord avec toi. Niche, d'une niche vers une autre. Mais là, tu vois, ils ont...
Je trouve plus light, moi, le Nier Automata et Kingdom Hearts par rapport
sûr.
À
FF16. Bien sûr. Mais, tu vois, le fait qu'ils aient un regard, que là, la team Yoshida, ils aient un regard porté vers l'Occident, vers le monde, c'est vrai, Game of Thrones, c'est vrai, mais ils ont aussi, dans le développement, quelque chose qui est très refermé sur eux-mêmes. Là, ils sont allés chercher Cash, ils sont allés chercher Platinum. Quels sont les succès?
Ils sont restés au Japon, quoi.
Quels sont les succès de Square Enix hors FF? C'est Cash. Quels sont les succès Platinum, en tout cas? Qu'est-ce qui a fait parler avec Taro Yoko et tout? C'est Nier Automata. Donc, ils sont allés chercher ça en disant, allez, ben, ça, c'est le futur, ça, on le met dans Final Fantasy.
Ouais. Et puis, j'ai dit ça, je préfère 100 fois plus le combat, le système de combat d'FF16 de celui de The Witcher.
Oh, mais oui, s'il te plaît.
Ultra limité, lourd et un peu, qui offre aucune variation.
Ouais. On l'a parlé de l'accessibilité, c'est intéressant, il y a déjà plusieurs niveaux de difficultés, les objets d'aide, tu l'as évoqué, l'accessibilité dans le lore, l'histoire, on l'a évoqué. On est sur un jeu aussi très guidé. Un petit peu facile, franchement, il y a pas beaucoup avec un aspect RPG moins dense, tu viens de le dire. C'est quelque chose qui peut décevoir, mais je pense aussi que c'est le sens de l'histoire. Et perso, et je vous en ai parlé dans deux raids alertes, moi j'en suis heureux et j'appelle de mes vœux des jeux qui sont à l'os, sans trop de système et qui s'articulent autour du gameplay. Et c'est exactement la voie que prend FF16. Il y a pas 50 000 systèmes, c'est vrai que moi, je trouve ça bête de dire c'est un RPG, c'est pas un RPG. On s'en fiche. C'est un jeu qui a des systèmes de RPG, mais qui sont basiques. Le jeu, il est à l'os. Il a de la narration, il a son système de combat, et il est articulé autour du gameplay. Moi, je suis dans le kiff, mais 2000. On se perd pas, tu vois, en sur-système, de sur-système, de sur-système. Je trouve ça cool.
Ça rejoint le côté rationnel dont on parlait. C'est que je pense qu'ils se sont fixés des objectifs, histoire, système de combat, machin, et qui sont focalisés là-dessus sans dériver, en fait. Et on va en parler pour les quêtes annexes, par exemple. Les quêtes annexes, je pense, c'est le pur exemple de quelque chose dont ils se foutaient un petit peu.
Bah, vas-y, on peut en parler de ça.
Bah, les quêtes annexes, en fait, c'est typiquement le pire caricature de la quête annexe, la fetch quest de JRPG qui ont aucun intérêt, en fait, et qui sont ni écrites, ni très intéressantes. À partir du milieu du jeu, on va dire qu'il y a des quêtes annexes qui se débloquent, qui ont un peu plus de consistance. Et on voit que sur certaines, des fois, ils essaient de te faire une petite morale un peu à la Witcher, tu vois.
Ouais.
Mais c'est jamais ni aussi bien écrit, ni aussi bien mis en scène, en
c'est
fait.
C'est vrai.
Et limite, j'ai l'impression qu'ils ont fait des quêtes annexes parce qu'il fallait faire des quêtes annexes, mais que ça les intéressait pas plus que ça, quoi.
Ouais. Alors, hyper intéressant comme point de vue. Est-ce qu'on peut essayer d'y voir le fait que c'est la team de FF14 qui fait des quêtes à la FF14 avec un hub central, avec des allers-retours? Moi je le vois
fetch MMO, ouais.
Moi j'y vois pas trop. Je suis d'accord avec toi, ce côté saupoudré de Witcher 3 où les quêtes annexes, aussi nulles soient-elles, arriveront toujours à la fin à te donner une phrase ou deux, un petit peu de lore qui va te permettre de comprendre. Ça peut être un peu appréciable, c'est tout début du jeu, je vous spoil rien, mais tu vas jouer le serveur, tu vas servir trois plats éclatés, enfin, ça sert à rien, surtout que les trois plats à servir, ils sont à 10 mètres de l'endroit où on te donne la quête. Néanmoins, tu vas comprendre le statut d'esclave de ces gens-là qui vont te parler et tu leur apportes à manger. C'est pas aussi bien que Witcher 3.
Oui.
Mais il y a un petit peu cette ambition, néanmoins, et c'est un truc que j'avais remarqué sur FF7 Remake, on avait un petit peu condamné certaines longueurs de donjons sur FF7 Remake, c'est vrai, je l'accorde. Là, on va un petit peu condamner le fait que, ah, c'est quoi toutes ces quêtes annexes et tout, sauf que on est sur un jeu, on l'a vu, à l'os. On est un jeu avec peu de systèmes, qui se base sur le gameplay. Si demain, on enlève les quêtes annexes ou on les réduit à peau de chagrin, on fait quoi? En fait, on regarde... là, le jeu comprend déjà 11 heures de cinématique. Si tu vires tout ça, ce qui est un petit peu va te donner matière à jouer, les quêtes de chasse qui vont te permettre de looter des trucs plus stylés avec des armes plus stylées, justement, qui vont donner un petit peu de corps à tout ça, si tu l'enlèves, alors c'est qu'on n'est plus à l'os, hein, l'os, il est brisé. On est vraiment devant une cinématique et on est devant un jeu Quantic Dream. Moi, c'est pas ce que j'aime, et là, je suis content, moi, d'avoir un système de combat qui est solide, que ça soit sur Remake ou 16, et des quêtes, certes, éclataxes un peu, mais qui vont me donner matière à me jouer. Enfin, moi, des fois, j'aime bien, tu vois.
Ouais, mais ce qui est marrant, c'est que souvent, quand, tu vois, nous, je pense qu'on aime bien explorer, quand t'as une map, tu vas vraiment la saigner avant d'aller à l'objectif, et en fait, la quête annexe, tu te rends compte qu'elle était faite pour t'amener dans ces coins que t'as déjà poncé.
Oui, exactement.
Et du coup, t'as cette espèce de petite redondance, mais, pour le coup, moi, c'est vrai que si quelqu'un me dit qu'il est pas sûr d'aimer FF16 ou qu'il s'est lancé dans le jeu et qu'il a des réticences, je lui dirais vraiment zap les quêtes annexes. Ça va, au contraire, ça va desservir l'aventure. Sauf, quand je l'ai dit, la deuxième partie, les quêtes annexes qui sont plus.
Alors, il y a un petit plus.
Voilà. Elles, c'est vraiment celles qui apporteront quelque chose d'un peu concret, quoi.
Ouais, voilà. Ça va apporter vraiment des bienfaits, que ça soit dans l'exploration ou même dans ton stuff, ça va donc t'apporter des
trucs. Ne faites que celle-là, a priori, si vous trouvez ça chiant, en fait. Si vous trouvez que le jeu manque de rythme, zappez-les, quoi.
Je voulais parler de ces quêtes annexes, justement, sur le dernier point. Est-ce que Final Fantasy XVI est un jeu japonais? On l'a dit, ces quêtes annexes, c'est quelque part un héritage. Et donc, on peut les aimer, on ne pas les aimer, les condamner. Ce feeling de quêtes annexes, il rappelle quand même un historique du jeu japonais. Donc, on est des vieux de la vieille et qu'on dit, on veut le notre FF d'antan, je suis désolé, mais des quêtes éclatées, on en avait quand même beaucoup. Et quand on parlait d'exploration, tu l'as dit tout à l'heure, à l'époque, dans les FF, quand il y avait un croisement dans l'exploration, on allait tous choisir en premier lieu la mauvaise direction. Tu disais, où est-ce que l'histoire ne va pas pour aller trouver ce fameux trésor? Et souvent, t'allais à gauche ou à droite. Là, ce FF16, en ce monde semi-ouvert, propose en termes d'exploration quelque chose qui est à des années-lumière de ce qu'était l'exploration à l'époque. Faut pas oublier non plus ce que c'était, quoi.
Il a ces deux phases où t'as vraiment un début du jeu qui fait presque FF13, hein, très très linéaire, cadré et tout, et t'as des phases un peu plus FF12, on va dire, dans l'exploration des fields, tout ça, quoi. Après, je vais jeter un pavé dans la mare, mais je trouve que le peu d'héritage japonais que conserve FF16, c'est souvent sur ses limitations, en fait. Et c'est ce qui peut le rendre old school.
Ok.
Et c'est qu'en gros, ses plus grandes forces, et là où il fait preuve de modernité, c'est justement quand il s'est vraiment éloigné de cet héritage japonais.
Ah, c'est intéressant. Moi, j'avais un point sur ce côté japonais. Dis-moi si t'es d'accord. Alors, évidemment, c'est un japonais de par son équipe, mais aussi de par ses thématiques et l'appréhension de ces thématiques dans la manière dont elles sont traitées. Un exemple qui ne spoil absolument rien, le thème de la vengeance. Alors, la vengeance à l'occidental, on a pu la vivre dans The Last of Us 2. Dans FF16, d'abord dans The Last of Us 2, juste pour vous décrire, il faut observer la vengeance, l'éprouver, la vivre, ceci pour comprendre et couper le cycle de la vengeance. La vengeance vue par les Japonais, c'est différent, c'est un peu plus symbolique, et je trouve que FF16 le porte bien. Le héros, en fait, il va porter ce mal de la vengeance, il va l'incarner. Et un exemple assez révélateur, le coup des doppelgangers avec des doubles maléfiques, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les jeux japonais. J'en dis pas plus, mais dans ce traitement de la vengeance, moi, en tout cas, en jouant, je voyais deux façons de voir le
c'est un classique, ouais. Un classique. Vous jouez FF4 et vous serez en terrain un peu connu, quoi.
Le scénario à la Jap, ça part en dieu, ça part en couille, il faut sauver le monde. Je trouve qu'on y est. Et les quêtes annexes, à la con, c'était un tiré.
Mais c'est vrai que moi, enfin, il y a quand même eu des rebondissements et des moments où t'es un peu sur le cul, comme rarement on a eu dans des FF récemment, quand même.
Ouais, franchement.
Je dois dire.
Même si FF15, je trouve, avait ses moments d'émotion, la fin de FF15, il y avait des trucs.
Moi, j'ai une affection pour FF15, que j'ai trouvé sympathique, mais t'avais jamais des moments... Enfin, moi, je t'envoyais des textos des fois en mode, putain, je viens de voir une scène, c'était ouf.
C'est vrai. En tout cas, sur la question, parce qu'il faut pas oublier la thématique de la chronique, qu'est-ce qu'un FF? Est-ce que sur le côté Final Fantasy XVI, est-il un jeu japonais? Est-ce que pour toi, même si tu l'as évoqué, il est japonais par ses limitations, en tout cas par sa direction, par son besoin d'être rationnel? Est-ce que ça reste un jeu japonais?
Bah oui, mais c'est rigolo, c'est que c'est purement un jeu japonais dans le sens où c'est le Japon qui commence à s'ouvrir, justement, quoi. C'est plus le Japon qui reste sur ses acquis, son pré carré, sa tour d'ivoire, mais c'est rigolo, quoi, parce qu'on a cette bascule, on a suffisamment parlé de la génération PS3 où le Japon a galéré et tout, et on voit que c'est un Japon aujourd'hui qui tente des choses, enfin... Le jeu, il est quand même à la fois, il évite de prendre des risques en lorgnant sur des choses qui marchent, des choses connues et tout, mais à la fois, il est d'une radicalité assez ouf quand même pour un Final Fantasy aussi. Donc, C'est, il a ce statut un peu hybride et c'est pour ça que il divise. Et moi, enfin, dès que j'avais commencé le jeu, je savais qu'il serait clivant. Et je trouve ça très intéressant parce qu'on en parlait tout à l'heure en buvant le café, c'est que hier les tests sont tombés et tout. Et aujourd'hui, on est dans un monde où Internet, c'est genre soit t'es le banger, soit t'es une rogne absolue. Il y a pas vraiment de juste milieu. Et pour le coup, dans FF16, on voit apparaître de la nuance qui est quand même pas à donner sur Internet. Même les gens qui ont aimé le jeu, bon, vont reconnaître qu'il y a des choses qu'ils ont moins appréciées ou quoi. Et les gens qui ont pas aimé vont aussi lui reconnaître des qualités. Donc je trouve ça super intéressant, quoi.
Comme nous, parce que nous sommes que nuances. En tout cas, tu as utilisé un mot radical. Radical, c'est une définition de ce qu'est Final Fantasy. Et je trouve ça intéressant, ce changement de ton, de système de combat, tout ce qui peut un petit peu questionner, être reproché, c'est l'incarnation de Final Fantasy. Et on arrive justement sur la conclusion un petit peu de la chronique. Sur, ben, moi, j'aimerais lancer le débat, un débat lancé par Yoshida encore. Est-ce que le prochain épisode de Final Fantasy doit garder ce chiffre romain et s'appeler Final Fantasy 17? Alors, au-delà du fait que c'est pénible à écrire en romain, ce chiffre commence à peser. Il devient lourd de sens, car ce chiffre, c'est le poids du passé. C'est un chiffre qui peut faire peur pour un nouveau public, mais c'est aussi un chiffre qui est prestigieux. Mmh. C'est la preuve que la saga FF est à l'épreuve du temps. Mais pour moi, l'héritage, ben, c'est pas le chiffre qui le porte, mais c'est l'appellation Final Fantasy. Parce que le statut de Final Fantasy n'est pas l'apanage de la série de Square Enix. Alors c'est chelou ce que je veux dire, mais vous allez comprendre. Le statut de Final Fantasy, il est provisoire, il se mérite. Et une autre série pourrait à terme y prétendre. Quand cette nouvelle saga se fera connaître, quand elle deviendra la voie à suivre, quand elle sera le futur du JRPG, je peux vous parier qu'on la désignera comme le nouveau Final Fantasy. Comme quand pendant longtemps, le mot Nintendo puis PlayStation ont été synonymes de console, bah, dans les films ou pour les darons. Ils disaient, t'as joué à ta Nintendo, ta PlayStation. Au final, qu'est-ce qu'un Final Fantasy? Bah, pour moi, c'est simple, c'est le futur du JRPG. Final Fantasy, c'est le futur, mais qu'il soit produit par Square Enix ou pas.
C'est cool, j'aime bien cette histoire. C'est un peu genre la ceinture de boxe, quoi. C'est genre, c'est un titre, en fait, que le boss du JRPG récupère.
Voilà.
C'est, je trouve ça rigolo.
Quand t'es le daron. Après, tu peux devenir, bah, Nintendo, on va dire, hein, le roi, qu'on l'appelait tellement, tout Nintendo. Après, la bascule, la couronne de LeBron James, elle a basculé chez PlayStation, tu vois. On a appelé, aujourd'hui, une console a été synonyme pendant longtemps de PlayStation. Peut-être à jouer à ta PlayStation. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que, je sais pas comment on appelle, faut demander à vos parents, comment ils appellent.
À la vidéo, t'as joué à la vidéo.
En tout cas, Final Fantasy, pour moi, c'est ça, c'est le futur, c'est la figure de proue, et que ça soit Square Enix ou pas, peut-être que le futur, en tout cas, je suis sûr qu'on le désignera comme ça.
Ouais, mais je suis curieux de voir où ils vont aller. C'est vrai que pour moi aussi, ce numéro, qui s'égrène et tout, ça fait vraiment l'image de prestige. Mais je pense qu'on sous-estime, ou le côté pour nous, hein, FF, c'est nouveau, ça repart à zéro, je pense qu'on sous-estime ceux qui le savent pas, en fait. Et comme on l'a dit, il y a eu 7 ans d'écart entre le précédent FF, 13 ans avant l'autre. Il y a peut-être des gens qui pensent que c'est une série qui suit, on peut pas les blâmer, tu vois. C'est vrai qu'on... T'as le mec qui va dire, mais j'ai pas joué au 15 d'avant, comment ça se passe? Enfin, faut pas le sous-estimer, nous on fait un peu les gamers, machin. Mais je serais pas surpris qu'ils aillent jusqu'au 19 et que le FF20 soit une espèce de reboot qui s'appellera juste Final Fantasy. Mmh. Voilà ma prédiction.
Alors moi j'adore l'idée, mais je pense que, en tout cas, encore plus les Japonais sont pas sur cette symbolique là, ils s'en foutent des anniversaires. À chaque fois nous on a des plans, ils font faire ça, enfin ils passent à chaque fois complet à côté de ces célébrations. Néanmoins, le prochain c'est le 17 pour arriver au 20. C'est nos enfants, hein, qui vont y jouer.
Oui, c'est vrai que ça va être dans longtemps. Après, ce qui est quand même, je pense qu'ils en savent rien, surtout, et que le succès de FF16 va, justement, dicter le futur. Si FF16 se plante, c'est pas impossible que le prochain FF soit pas numéroté. S'il marche, on aura peut-être un FF17.
Peut-être qu'il va changer de physionomie, de philosophie. Est-ce que ça va être un jeu mobile? Ça a été, quand FF10 et FF11 est passé en jeu en ligne, ça a été quelque chose, même s'ils ont été annoncés en même temps. Et rappelez-vous cette époque où FF9, 10 et 11 avaient été annoncés en même temps, et donc c'était un petit peu pour accompagner le changement. Est-ce que les prochains Final Fantasy vont avoir cette tête-là? Le succès de FF16 va aussi conditionner le succès, enfin en tout cas le production des remakes. Là, FF7 Remake fonctionne et est basé sur une trilogie. Il y a des rumeurs de FF9 Remake.
FF9, on peut même dire que c'est pas des rumeurs, hein, c'est que...
C'est lui qui l'a dit. J'ai rien dit. Mais
il y a même des rumeurs de FF10 pour le coup.
FF10, bah, ce que je veux dire, c'est que il y a clairement deux lignes de production qui se dessinent. Si la ligne de production de remaster et remake commence à gagner plus d'argent et faire plus de ventes que les Final Fantasy numérotés, ça va jouer. Jouons au jeu du comparo Resident Evil. Voilà, Capcom, Japon et une saga au long cours avec plusieurs cycles. Les Resident Evil numérotés fonctionnent de ouf. Les remakes fonctionnent de ouf, mais de façon équivalente.
Mais Capcom, c'est le paradigme timing parfait en fait quoi. Ils ont réussi à trouver la formule trop bien quoi.
Donc Capcom eux, ils ont cette balance et ils arrivent à entretenir les nouveaux et les anciens. Final Fantasy, je sais pas s'ils vont en arriver, c'est pas les mêmes, je vais pas dire que c'est pas les mêmes
c'est pas la même ampleur, ouais, voilà. Faut pas déconner non plus. Mais c'est vrai que juste enfin là, c'est vrai que c'est bien là, les esprits sont à fond, ça discute, ça débat, mais si vous voyez un mec énervé en disant ouais, c'est plus FF et tout, enfin imaginez-vous le choc si tu te FF6, c'est que tu vois les premières images de FF7, un monde futuriste, cyberpunk chelou. Imaginez, je pense qu'on est encore plus radical que ça. Imaginez aussi après 9 épisodes, 10 épisodes solo, qu'on te dit le 11e sera un jeu MMO. Enfin, imaginez voilà que ça n'est pas son premier coup d'éclat la saga. Donc dites-lui à ce mec, reste tranquille mec.
T'es sûr que c'était pas si scripté FF à l'époque?
Calme-toi.
Bon, on reviendra sur Final Fantasy 16, oui, sûrement dans un épisode EX cet été. On va laisser Damien le temps de le terminer. On a vu pour un raid alert, je crois qu'on est sur une petite heure et demie.
On s'est un peu enflammé là.
On s'est un peu enflammé. Merci Nico, merci à vous, merci pour votre fidélité, merci pour les pouces, les notes, on vous voit, les commentaires, ça fait super plaisir. La note sur les plateformes d'écoute de podcast, c'est ce qui aide, je crois, le plus.
Voilà, surtout si c'est un 5 sur 5, évidemment.
Surtout si c'est un 5 sur 5. C'est l'heure, de remercier toute la team à Ken, à Damien et à Ludo. On fait un petit point sur Third, parce que si vous aimez nous écouter, peut-être est-ce que vous allez aimer nous lire.
Et quand on parle de Final Fantasy, je pense que là on a de quoi satisfaire votre curiosité. Vous le voyez derrière nous, retour en stock après quelques temps de rupture. Donc FF 8 et 9, ça a été largement réclamé. Les suivants viendront évidemment. Hein. Pour FF 12, on prépare quelque chose. 13 et 15, ça arrivera aussi. Mais enfin, si vous aimez la saga FF, hormis les épisodes MMO qui ne sont pas encore traités pour le moment, vous avez complètement de quoi vous y retrouver chez nous, quoi.
Et le JRPG, c'est pas terminé. En décembre, un livre sur le JRPG, le genre du JRPG, et sur Final Fantasy VII Remake, le premier épisode de la trilogie. FF7 Remake, en tout cas FF7 Rebirth, on en parlera la semaine prochaine, avec
Dordogne.
Voilà. Le grand écart des genres et des styles.
Je pense que parler de Dordogne 15 jours après la vague FF16, ça sera évidemment le banger du moment.
On s'en fiche de l'actu.
Exactement.
Je suis sûr que vous voulez savoir l'avis de Nico et vous n'avez pas entendu ce stylo tomber. On vous remercie et on vous dit à la semaine prochaine.
Bye bye.